Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Let's go sur Reddit. Alors, premièrement, on va se faire un petit point de boycott de Reddit. Alors, pour ça, on va aller directement voir la presse parce que j'ai pas les chiffres. Pour voir un petit peu les résultats du boycott de Reddit. Donc, pour vous rappeler pourquoi il y a eu boycott de Reddit la semaine dernière pendant plusieurs jours, c'est parce que Reddit a annoncé qu'ils allaient rendre payant cher l'accès à leur API, ce qui veut dire que, en gros, bon, je suis pas techos, hein, mais en gros, ça veut dire que les applications tierces qui permettent de consulter Reddit, donc pas l'application Reddit officielle, mais des applications, il y en a plusieurs qui existent, comme Apollo, Bacon, je sais pas quoi, enfin voilà, il y en a plein, qui soit proposent différentes, des fonctionnalités différentes de l'appli officielle, des fonctionnalités supplémentaires, soit en moins de pubs, voilà, il y a des gens qui les préfèrent ergonomiquement, tout simplement. Mais ces applis, du coup, bah, tu te connectes avec ton compte Reddit et ça t'affiche Reddit, donc ça prend des données du côté de Reddit. Et Reddit a dit, on va rendre payant l'accès à ces données. Donc les applis qui siphonnent, entre guillemets, Reddit pour l'afficher sur une autre application que Reddit officielle, ça va leur faire. En fait, ils vont, à chaque requête, donc à chaque utilisateur ou utilisatrice qui veut aller sur Reddit sur l'appli non officielle, bah, il y aura un coût pour chaque utilisateur et ça se monte du coup pour, vu le nombre de gens qui utilisent ces applis, à des millions et des millions d'euros par mois, ce qui n'est pas viable financièrement pour des applis qui jusqu'ici n'avaient pas à payer. Les applis en question et notamment bah, le PDG de Apollo qui était une des grosses applis alternatives à Reddit, et je dis était parce que Apollo a fermé avant même l'entrée en vigueur de cette décision, a expliqué qu'il est tout à fait prêt et que c'est tout à fait normal de payer pour avoir accès à Reddit, de payer pour avoir accès aux API, mais que tout simplement, là, le montant demandé est beaucoup trop élevé, c'est pas viable, il n'y a pas de truc progressif, il n'y a pas de discussion possible. Enfin, dans la forme actuelle, en tout cas, ce n'est pas viable. C'est un peu comme la réforme des retraites. Faut-il réformer les retraites? Peut-être. Faut-il le faire comme ça et au forcing? Probablement pas. Du coup, il y a eu un boycott d'organiser. Alors, ça pose des questions d'où il y a des gens qui préfèrent les applications tierces pour des raisons de juste d'ergonomie, de les vidéos ça marche mieux, des choses comme ça, mais il y a aussi deux problématiques quand même importantes qui sont pas juste des trucs de confort. La première, c'est l'accessibilité. L'application officielle de Reddit ne permet pas des réglages de ouf niveau accessibilité, donc je sais pas, taille de la police, niveau de contraste, etc., pour les personnes qui ont des handicaps visuels ou ce genre de choses. Alors le PDG de Reddit a promis d'améliorer l'appli officielle sur ce point-là et de ne pas faire payer les applis qui sont 100% axées autour de l'accessibilité. Donc, par exemple, une appli qui permet de lire Reddit à haute voix pour les personnes malvoyantes ne va pas devoir payer l'accès à Reddit. L'autre, donc voilà, ils disent qu'ils travaillent dessus, à voir. Et l'autre aspect, c'est que apparemment, beaucoup de fonctionnalités qui étaient essentielles aux modérateurs et modératrices de subreddit n'existent que sur les applis tierces, c'est pas sur l'appli officielle, ce qui fait que la modération du contenu va être de plus en plus compliquée, sachant que les modérateurs et modératrices de Reddit sont bénévoles, ce ne sont pas des employés, ce sont des gens qui sont juste des utilisateurs du site. Et ça me matrixe toujours que des gens fassent ça gratuitement, parce que autant sur un petit subreddit où t'as 30 pélos qui parlent de train mécanique, why not, hein, mais sur des gros subreddits, ça devient des équipes entières avec c'est quasiment un job à plein temps, quoi. Et du coup, ces modérateurs et modératrices ont alerté sur le fait qu'ils et elles ne vont plus pouvoir faire correctement leur travail, ce qui veut dire qu'on va potentiellement avoir du porn qui pop sur des subreddits qui sont pas du tout dédiés à ça et où il y a un public qui peut ne pas être prêt à le voir parce que des outils qui permettent de signaler des posts not safe for work, etc., il y en a moins sur l'appli officielle que sur les applis tierces. Ça veut dire qu'on peut avoir des communautés qui vont partir en couille parce que la modération d'un grand nombre de messages va être plus compliquée. Donc s'il y a une communauté qui doxe une autre communauté, enfin qui envoie, qui spam plein de reloutises, bah ça va être plus long à gérer, ça va peut-être être des communautés qui meurent aussi. Donc voilà, il y a des vraies conséquences à cette décision de Reddit de limiter l'accès aux applis tierces, au-delà de il y a des gens qui juste préfèrent parce que tu peux choisir la couleur du fond, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. Et donc il y a eu 24 à 48 heures de boycott la semaine dernière de très nombreux gros subreddits et moins gros, y compris Reddit France. ont fait grève, c'est-à-dire que soit ils ont fermé, soit ils sont passés en privé, donc c'était plus accessible, soit tout simplement plus personne ne pouvait poster pour protester contre l'utilisation de Reddit. Et chaque utilisateur et utilisatrice pouvait aussi choisir de ne pas fréquenter Reddit pour, parce qu'il y avait des subreddits qui continuaient à tourner. Il y en a beaucoup qui ont fait des votes et qui ont dit voilà, si vous êtes tant à voter pour qu'on fasse grève, que le subreddit ferme, on le fait et puis sinon on le laisse ouvert. Donc il y avait des grosses, il y avait quand même des gros subreddits qui étaient ouverts, mais il y en a beaucoup qui ont fermé. Et donc est-ce que ce manque à gagner en termes de visibilité pour Reddit, est-ce que cette protestation va changer quoi que ce soit? Nous allons le voir, mais si vous lisez l'anglais, le titre de cet article vous a peut-être déjà mis la puce à l'oreille, puisque cet article de PBS nous dit « Malgré une large protestation des utilisateurs et utilisatrices, le PDG de Reddit dit que l'entreprise ne négocie pas sur ce fameux coût pour les applications tierces. » Bonjour Cadlo, bonjour Armélie. On est en train de faire un petit point sur qu'a donné le boycott de Reddit la semaine dernière. Donc en effet, le blackout était réel. Il y a eu, alors je sais pas s'il y a des chiffres sur la baisse de fréquentation, mais en tout cas il y avait vraiment beaucoup, y compris de très gros subreddits qui étaient inaccessibles. Donc forcément il y a moins de gens. Et le PDG Steve Huffman dit à la société presse, donc l'AFP en gros. L'analogie que j'aime utiliser pour Reddit, c'est que Reddit, c'est une ville, et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une manifestation dans notre ville. Les manifestations et les désaccords sont importants. Le problème avec cette manifestation-là, c'est que ça ne va rien changer, parce que nous avons pris une décision business sur laquelle nous n'allons pas négocier. Ok, près de 9000 subreddits ont fermé, enfin, sont passés en privé cette semaine et sont donc devenus inaccessibles. Alors, sachant qu'il y en a environ 100 000 d'actifs, donc 9 000 sur 100 000, ça fait presque 10 000 sur 100 000, ça fait presque 10%, si je ne dis pas de bêtises. Après 48 heures, certains sont redevenus publics, d'autres restent privés indéfiniment ou jusqu'à ce que Reddit change d'avis, tout simplement. À savoir, le 1er juillet, hein, normalement, cette nouvelle règle de Reddit va rentrer en action. Plus de 4 000 subreddits, le boycott a commencé lundi et vendredi, toujours selon PBS, plus de 4000 subreddits étaient toujours en train de participer à ce blackout. Et alors, sachant que il y en a qui ont fait un blackout, il y a des subreddits qui ont fait un blackout de type bah, on ferme, on reste fermé, on reste privé. Il y en a d'autres qui ont pris des méthodes alternatives. On va parler très vite de John Oliver et de pourquoi il y a beaucoup de photos de John Oliver sur Reddit actuellement. Reddit note que la vaste majorité des communautés sont toujours actives, ce qui est vrai, parce qu'il y a aussi beaucoup d'utilisateurs qui ne se sentent peut-être pas concernés par ces problèmes, qui utilisent déjà l'appli officielle et qui n'ont peut-être pas envie de se mobiliser ou qui n'ont pas les infos sur en fait, bah, voilà, la fin des applis tierces, ça va aussi rendre Reddit inaccessible ou plus désagréable à utiliser pour pas mal de gens. Et la Société de Presse a interviewé le modérateur d'un subreddit qui participait au boycott, qui s'appelle Omar, et qui dit... beaucoup de ce qui est en train de se passer ici, c'est Reddit qui crame son capital bienveillance de ses utilisateurs et ça va leur coûter bien plus cher que d'essayer une collaboration ou une négociation. Alors en effet, la confiance des utilisateurs et des utilisatrices, elle est très dure à gagner, facile à perdre. S'il y a 90% de Reddit qui était toujours accessible, je peux entendre que Reddit soit là. Enfin, pas 90% de Reddit, 90% des subreddits. Mais si, dans les 10% qui étaient inactifs, c'était les plus gros qui représentent 50% de la fréquentation de Reddit, il y a potentiellement une grosse baisse d'audience. Mais ça, on ne sait pas. Donc voilà où on en est. Reddit France est toujours ouvert. Ce qui va nous permettre de le lire. Je pense qu'il doit y avoir quelque part, je vais chercher un petit mot sur la grève et le boycott pour voir un petit peu, voilà, est-ce que Reddit France veut continuer? Est-ce qu'ils en ont parlé? La confiance, 10 ans à monter, 1 seconde à briser, 1 éternité à reconstruire. C'est beau ce que tu dis. Search for grève in Reddit France, ça risque d'être un petit peu... Ok, bah voilà, on a un topic d'il y a 5 jours sur Reddit France qui nous dit, soyons clairs, il faut prolonger la grève jusqu'à ce qu'on ait satisfaction, que ce soit sur Reddit ou en France. Le subreddit United Kingdom est toujours fermé. Les Anglais sont meilleurs grévistes que les Français, c'est la honte. Après, il y a un peu... On va en parler, mais bon. Je vous lis un petit peu les réactions sur Reddit. Donc, à ce post qui dit qu'il y a quand même 1200 upvotes, c'est beaucoup. 1200 votes positifs, c'est beaucoup pour Reddit France, qui a des centaines de commentaires. Enfin, c'est un sujet qui fait parler, puisque c'est un sujet qui concerne directement Reddit sur Reddit. Un utilisateur ou une utilisatrice de Reddit France nous dit « Une grève, c'est un rapport de force. Il faut que les conséquences de la grève deviennent tellement importantes que la partie adverse se voit obligée de céder. Grève générale reconductible, il n'y a que ça de vrai. Ah, » ok. « Grève générale et illimitée, ne faisons pas les mêmes erreurs que l'intersyndicale. » Ah, quelqu'un dit « En vrai, 2 jours sans Reddit France, ça m'a fait un grand bien. En vous revoyant revenir ce matin, j'ai pris conscience qu'on pouvait utiliser Reddit sans cette toxicité de donneurs de leçons et toute cette bande de moralisateurs qui te disent quoi regarder et quoi aimer. Je vais plutôt effacer ce sub. Adieu. » Et quelqu'un lui répond « À demain. » Parce qu'il y a régulièrement des gens qui arrivent sur Reddit France en disant « Je pars. Je pars, vous êtes trop négatifs. Vous êtes tout le temps là à râler comme si on était en France ou quoi que ce soit. » Je n'aime pas l'ambiance, c'était mieux avant, je m'en vais. Et les gens font d'accord, bah vas-y, t'es pas obligé de faire un speech, mais ok, I guess. Et parce qu'ils espèrent lancer un débat sur oui, nous allons changer l'ambiance du sub, mais en fait le sub il est fait par les gens qui l'utilisent. Et du coup c'est un peu genre, ok, bah crée tes propres topics, crée ton propre subreddit, mais l'ambiance que tu veux mettre, sorry, c'est une communauté participative, donc d'accord, ciao. Donc c'est d'où le jeu, enfin d'où le fait que les gens vannent un petit peu. Peut-être que la personne est sérieuse, hein, et dit vraiment que c'est toxique pour elle, Reddit France, mais c'est un peu genre, d'accord, vas-y, quoi. Et en même temps, elle-même, elle est un peu en train de donner des leçons, donc c'est rigolo, quoi. Ah, quelqu'un demande, sur Reddit, dites, est-ce que c'est normal d'en avoir rien à faire par rapport à Reddit, pas la France, et de juste consommer les réseaux qui nous sont proposés ? Je veux dire, si Reddit prend trop de mauvaises décisions, au bout d'un moment, on se mettra à utiliser autre chose. Donc la personne est un peu en mode, il n'y a pas besoin de genre boycotter ou quoi, juste on utilise Reddit, et si un jour ça devient trop chiant d'utiliser Reddit, parce que par exemple, il y a trop de pubs ou quoi, bah, on utilisera autre chose, comme naturellement, en fait, le business a fait que, fut un temps, on était sur MySpace et MSN et Skype, et maintenant plus personne n'est ni sur MySpace, ni sur MSN, ni sur Skype, sauf peut-être des entreprises. Et encore non, il y a Teams maintenant. Donc voilà, c'est aussi... En gros, la protestation, et c'est pour ça qu'on parle de grève, de boycott, c'est une protestation politique contre la façon de faire de Reddit et contre la course à l'appât du gain toujours grandissante sur des outils qui sont censés, à la base, certes, être des entreprises capitalistes, mais aussi être des outils pour connecter les gens. Et en fait, ça rend payant l'accès à connecter les gens, ou ça le complique. Voilà, il y a des personnes qui vont avoir plus de mal à utiliser Reddit parce que l'appli officielle n'est pas adaptée à qui elles sont. Et pour des raisons de business, pour des raisons d'argent. Et c'est un peu genre... En fait, le problème, c'est que c'est comme si demain... Bah, c'est comme là, Elon Musk qui fait n'importe quoi avec Twitter, ou si demain, Meta ferme, et en fait, il n'y a plus Facebook, il n'y a plus Instagram et tout. En fait, tout est hyper centralisé, il n'y a pas d'alternative, genre il n'y a pas le Instagram du service public français ou de l'Union européenne. Donc, en fait, en effet, Reddit peut faire ce qu'il veut, c'est l'entreprise, ils font ce qu'ils veulent, dans la limite de la loi, mais ça a l'air d'être dans les clous. Mais on a... En tant qu'utilisateur, on est privé d'un pan entier de notre communication avec les autres pour des décisions business, et c'est normal parce que c'est une boîte, mais c'est aussi un peu rageant. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des protestations politiques, y compris de gens qui en fait sont très bien sur l'application officielle et qui s'en foutent un peu des applis tierces, mais qui veulent protester contre cette commodification des rapports humains et des outils de développement de communauté et de mise en lien des humains. Et en même temps, bah, c'est des outils qui sont pas gratuits, donc à la fin, ça coûte des sous, quoi. I don't know. Et il y a un peu une Zumba de Reddit est en bourse et doit être évalué ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est un peu, ils essayent de se remettre dans le vert. Ils ont fait beaucoup de licenciements aussi. Enfin, financièrement, Reddit, c'est pas la grosse teuf, quoi. Ah, quelqu'un dit, la grève m'a permis de me rendre compte que j'apprenais plus grand chose sur Reddit. Je scrollais indéfiniment mes subs favoris comme une vulgaire addiction à Instagram. Parfois, je tombe sur des trucs intéressants, mais est-ce que ça vaut tout le temps passé? Peut-être que je devrais limiter mon utilisation à mes recherches Google suivies de Reddit. Et quelqu'un répond, c'est vrai, mais ce qui m'intéresse souvent, c'est de voir l'opinion des gens, surtout dans les subreddits spécialisés. Bah, moi, c'est pareil. En fait, ce qui va me manquer avec Reddit, c'est pas la curation d'actu, de news, etc. C'est la discussion. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'info, et c'est pour ça qu'on fait des live actu Reddit, c'est les réactions des gens. Et en fait, c'est un des rares endroits où, pour plein de sujets, les commentaires restent globalement lisibles. Je sais pas si vous avez réussi récemment de lire les commentaires Facebook de BFM, mais à mon avis, c'est pas mieux qu'avant, quoi. Donc, et surtout, bah, pour les sujets d'actualité française et francophone, en fait, il n'y a pas tant d'endroits où on peut lire des gens, débattre d'actualité, avec de la place pour écrire et développer des idées, donc pas Twitter, avec un format écrit et pas vidéo, donc pas YouTube, pas TikTok, etc. Et avec bah, des gens qui ne sont pas tous dans ma bulle personnelle de féministes militantes woke. Donc, honnêtement, ça m'a manqué Reddit pendant les 2 jours parce que j'étais là, bah, en fait. C'est littéralement un espace que je ne sais pas où trouver ailleurs. Gwynaman dit « J'essaye d'y aller un peu parfois, mais la démographie m'énerve tellement. » Ouais, alors, comme on l'a déjà beaucoup dit, Reddit France, c'est pas mal de mecs. trentenaires cadras, blancs, cis-hétéros qui vivent en grande ville et qui bossent dans l'informatique et qui gagnent du coup un petit minimum 40, enfin au moins 2500 balles par mois, quoi. C'est pas forcément des gens qui sont dans ma bulle, mais moi j'aime bien, même si des fois ça m'énerve, mais c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que lire des avis de gens féministes qui veulent NUPES, qui votent NUPES, j'en ai plein autour de moi, lire des avis d'ingénieurs informatiques qui en fait sont pas, où il y a des problématiques qui pour moi me paraissent incontournables, où ils sont là, moi je pense que je m'en fous, mais tout comme pour eux il y a des trucs qui paraissent hyper importants où je suis là, je pense que c'est pas un problème et on s'en fout. Donc voilà, ça me sort un petit peu de ma bulle. Ouais, alors Crushtats dans le chat dit ma drogue c'est White People Twitter sur Reddit. Crushtats, il aime trop les subreddits de gens qui... Il aime trop les subreddits où tu regardes et tu fais « Ah ouais, ces gens, ils sont nuls. » Moi, j'aime pas ça. Genre, ça... C'est pas bon pour ce que j'ai. Mais écoute, Gwynaman, alors, si ça t'embête que sur Reddit France, ça soit très masculin, ce qui est réel, hein, c'est pas genre juste une estimation personnelle. Il y a des sondages réguliers sur la population du sub et bah, voilà, on est toujours là. Il y a Elle, qui est un subreddit francophone féminin, qui a quand même 11 000 abonnés et sur lequel j'ai pris le temps hier, voilà, il y avait un topic coucou tout le monde, j'ai pris le temps de me présenter. Moi je fais que sous-mariner sur Reddit, je poste jamais, je fais que lire. Mais là voilà, il y avait un post qui disait coucou, on a eu des nouvelles arrivées sur le sub. Donc n'hésitez pas à vous présenter. Et du coup, j'ai mis un petit message, voilà, pour dire je suis une femme de 31 ans, féministe, je vis à Paris, j'ai un souci d'addiction à Reddit et je m'intéresse aux communautés féminines et ou féministes sur internet, surtout sur le web français. Je sous-marine depuis la création du sub, donc je profite du fil pour dire coucou. Et il y a Ask Meuf, qui est l'équivalent français de Ask Women, un très gros subreddit, où, en gros, l'idée, c'est aussi de... normalement, c'est des questions posées aux femmes, pas forcément par des femmes, mais aux femmes. Et normalement, du coup, c'est que les femmes qui sont censées répondre. Donc, tu mets un petit flair, un petit tag à ton profil, là, pour dire... que t'es une meuf, parce que c'est l'idée. Après, c'est Internet, tu peux mentir, évidemment, mais comme sur le forum Mademoiselle, qui est un forum non mixte, t'es censé pas mentir et dire que t'es une femme alors que t'en es pas une. Après, vous pouvez, mais à quoi bon, finalement, pour avoir un petit peu des expériences féminines. Donc voilà. Ah, Prise dit, merci pour la recommandation, je galère à trouver des bons subreddits. Bah écoute, ils sont pas hyper actifs par rapport à Reddit France, mais ils sont cool. Et écoutez, je vais rentrer dans mon roster que dans ce live Reddit, on aille régulièrement voir un des deux ou les deux, pour voir un peu ce que ça raconte aussi dessus, comme on va avoir Reddit France, mais aussi Ask France. Comme ça, bah voilà, on ira un peu lire les meufs de Reddit, les meufs francophones de Reddit, c'est cool. Ok, donc voilà où on en est de la grève. Reddit France n'est plus fermé. Ça me fait rire tous les gens qui viennent poster « Il faut continuer la grève !» Et je suis là, bah du coup, déjà c'est pas une grève, c'est un boycott, parce que c'est pas les employés de Reddit qui font grève, c'est les utilisateurs. Et je suis là, bah du coup, venez pas sur Reddit. Enfin, vous avez qu'à pas être sur l'appli si vous voulez boycotter Reddit. Mais bon, c'est compliqué, hein. C'est compliqué l'alignement des planètes, des valeurs. Et donc si vous voyez, là, la bannière de Reddit France, il y a marqué... C'est genre Reddit France qui s'écrase sur Spez, parce que Spez, c'est le username du PDG de Reddit. Voilà. Donc il est écrabouillé, I guess, par le parpaing du boycott. Le mieux sur Reddit, c'est tous les subs de petites communautés. Mon addiction Reddit, c'est Explain Like I'm 5. Explain Like I'm 5, c'est trop bien. C'est Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans. Et donc, c'est vraiment Expliquez-moi des trucs compliqués, mais de façon simple, SVP, parce que I don't know. Mais après, vous dites ça, on va aller voir un milliard de subreddits, on va en faire un différent chaque lundi. Après, c'est ma vie, hein, mais après, on n'en sort jamais, quoi. Et par exemple, voilà, le post épinglé, évidemment, sur Explain Like I'm 5, c'est Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans, pourquoi est-ce qu'il y a autant de subreddits inaccessibles, qui go dark, qui ferment, etc. Et je crois qu'il y a une version française. Alors non, il n'y a pas de questions idiotes en français, qui est donc No Stupid Question. En gros, ils ont sorti des alternatives francophones de plein de gros subs anglophones. Mais je crois que j'avais vu à un moment que c'était un peu genre du... Bon, non, c'est pas grave. Mais voilà, il y a plein d'alternatives francophones à des gros subreddit anglophones parce que c'est trop bien. Mais on n'a pas encore question aux historiens, parce que moi, mon subreddit préféré, c'est Ask Historians. Je vous en avais parlé dans Laisse-moi kiffer. On avait fait un live entier dessus. On en refera un de ces quatre. Qui a un subreddit où il y a plein de questions de la plus random à genre est-ce qu'il y avait de la street food vendue au Colisée, à la plus large, genre comment est-ce que les gens pouvaient ignorer l'existence des camps de concentration. Et où la règle, c'est que ça doit être des vrais historiens avec des vraies sources vérifiées qui font des commentaires quasiment académiques, universitaires, quoi, des réponses très documentées. Donc c'est très modéré et c'est parfois frustrant parce qu'il y a une super question et t'attends 2 semaines, il n'y a toujours pas de réponse parce que personne n'a assez d'infos pour donner la réponse. Mais c'est aussi l'occasion de trouver des spécialistes de tout et n'importe quoi, genre... Bonjour, je suis spécialisée dans les métiers de l'hôtellerie entre 1532 et 1535 en région de Bourgogne. Voici ma réponse à ta question. Qu'est-ce qu'on mangeait au restaurant au Moyen-Âge en France ? Enfin voilà, des trucs comme ça. C'est ma passion, c'est trop bien. Mais c'est en anglais et il n'y a pas encore d'équivalent français. Et oui, il y avait de la street food au Colisée. Voilà, vous le saurez. Ok. Donc, on avait dit qu'on allait peut-être parler de fucking Manu Macron et sa bière. Je l'avais vu passer. Voilà, Emmanuel Macron boit une bière cul sec et de masculinité. Donc, alors ce qui est bien, c'est que là, on n'a même pas à se taper la lecture d'un article, puisque c'est la vidéo, c'est super, on a la flemme. Mais Toulouse, champion de France du top 14 de rugby. Et du coup, la fête... Manu Macron, blablabla, bla bla, petite corona cul-sec. Voilà le sujet brûlant du jour. Alors en soi, Emmanuel Macron, il fait bien ce qu'il veut de sa vie. Moi-même, j'ai bu des petites coronas hier. S'il veut fêter la victoire avec l'équipe en buvant un verre, je suis vraiment pas là pour reprocher aux gens de boire de l'alcool. Malheureusement, on est quand même dans un pays où on a un problème de santé publique lié à l'alcool, mais je vais pas dire « Non, mais c'est le président, il devrait même pas boire une petite bière parce qu'il devrait servir d'exemple, parce que moi-même je bois des coups avec vous sur Twitch. » Les FPS sont dramatiques. Ah non, et Modem, est-ce que tu veux dire que la vidéo était saccadée de fou ? Je pensais avoir réglé ce problème, mais ou alors peut-être que FPS, c'est pas pour frame par seconde, mais si oui, désolé. Je pensais avoir réglé le problème de la vidéo qui lag, mais en fait, la solution pour régler le problème, c'est de plus avoir mon retour OBS quand je vous montre une vidéo. Donc bah, je vois pas que ça saccade, parce que j'ai plus mon retour. Tout était saccadé. Bon, je vous la résume, c'est Macron, il est avec les rugbymen. Il commence à boire une Corona, les gens se rendent compte qu'il boit cul-sec, tout le monde fait « oh, oh, oh » et il la boit cul-sec, voilà. Et je me suis dit que c'était bien d'en parler, parce que c'est, alors au-delà du fait divers, la séquence, etc., tu vois. Ah, alors Cadlo nous dit « En tant que Toulousaine de naissance, cette vidéo de troisième mi-temps me trigger de ouf. » Et voilà, j'ai pas envie, Macron il boit sa Corona s'il veut, bravo pour son talent en cul-sec, personnellement je suis pas capable de faire ça sans te lâcher un gros rot au milieu, donc. Mais qu'est-ce que ça dit en termes de symbole, d'un point de vue du prisme du féminisme et de la masculinité, c'est sur quelle valeur ça appuie, à qui ça parle en termes de public. On est sur un président élu en exercice, donc bien évidemment tout est politique, tout est communication politique. Moi, ma théorie, c'est qu'il s'est entraîné, okay, au cas où. Il s'est entraîné, ça fait genre 2-3 jours qu'il boit des Corona Q-sec solo, pour être sûr de bien avoir le move où t'as pas la mousse qui te remonte dans le nez parce que c'est miskin, où tu claques pas un gros rot après parce que c'est miskin et que, ok, c'est le président quand même. Hein. Donc on va boire une Corona comme un homme du peuple, mais on n'est pas un pro, on va pas claquer un rot, on a une éducation. Donc moi, ma théorie, c'est qu'il s'est entraîné, ok. Et que ça veut pas... Enfin, on m'a dit, mais non, je suis sûr, il était grave team BDE, il faisait école de commerce, il faisait des cul-secs. Je dis pas qu'il savait pas faire des cul-secs à 19 ans. Je dis que moi, j'ai 31 ans et je peux plus picoler comme à 19 ans. Lui, il est encore plus yeuve que moi. Donc, à mon avis, il s'enquille pas des cul-secs tous les 4 matins. Donc, moi, ma théorie, c'est qu'il s'est entraîné, carrément, parce que je pense que ce moment, il est pas spontané, il est évidemment décidé, et qu'il dit des choses... de la persona publique du président et de ce qu'il met en avant en faisant ça, quoi. Le mec a compris qu'en politique française, tu picoles comme chichi. Alors, donc sur le chat, Crushtats nous dit « Le mec a compris qu'en politique française, tu picoles comme chichi. » Chart nous dit « Qu'est-ce que ça dit que ça devienne un sujet national et donc fasse diversion ?» J'avoue, peut-être que je fais partie du problème à vous en parler, quoi. C'est Macron, il dit, trop une corona. Ok, alors Cadlo qui nous dit, donc, en tant que Toulousaine de naissance, cette vidéo troisième mi-temps me trigger de ouf. Alors moi, je suis pas Toulousaine, je suis pas Sud-Ouest, je suis pas rugby. Donc est-ce que tu veux bien, dans le chat, nous en dire un peu plus sur c'est quoi l'ambiance troisième mi-temps et surtout, alors je sais pas si Cadlo, tu es un homme ou une femme ou autre, mais par rapport à ton genre, est-ce que du coup, est-ce que tu t'es senti inclus ou incluse dans ces trucs ? Est-ce que c'est des choses de virilité plutôt positive et festive ? Ou de virilité un petit peu dans une forme d'agressivité, de violence, de compétition. Pour moi, il y a vraiment, enfin c'est vraiment une vidéo de couilles en fait. Et alors il y a Sandrine Rousseau qui l'a retweeté en disant un truc genre la politique de la masculine. Attendez, je vais pas. Vous savez quoi ? On est professionnels, on vient du journalisme, on va pas mettre des mots dans le clavier de Sandrine Rousseau. Je vais vous lire. Mais pourquoi j'ai un article de West France ? Je veux le Twitter de Sandrine Rousseau directement. Est-ce possible ? Vraiment, Google ne me donne pas le Twitter de Sandrine Rousseau en premier quand je cherche Twitter Sandrine Rousseau. Donc, Sandrine Rousseau a retweeté la vidéo en disant « La masculinité toxique dans le leadership politique en une image ». Et quelqu'un, alors je sais pas si, ouais, je le verrai, quelqu'un lui a répondu avec... bon, du coup, entre-temps, ça a sauté. Enfin, c'est parti trop loin parce que trop de gens lui ont répondu parce que les gens aiment trop s'énerver sur Sandrine Rousseau. Avec une vidéo d'elle en train de... En campagne ou je sais pas quoi, en train de boire, de danser en buvant un petit verre de blanc. Donc pareil, célébration plus alcool. Donc l'idée, c'est un peu, bah, quand c'est vous, c'est une femme, ça va. Et quand c'est un homme, c'est la masculinité toxique. Mais je trouve que la scène est très différente parce que là, Emmanuel Macron, il est pas... Et alors, Krogstad, si tu dis... il fait full Chirac. J'ai pas souvenir de Chirac qui cul sec une Corona, mais peut-être. Je le vois bien cul sec un bon 25 centilitres de rouge sans problème. Dans le cul sec de bière, il y a une performance de la virilité qui, enfin, c'est un acte qui est beaucoup plus associé socialement aux hommes qu'aux femmes, surtout après la fin d'un match de rugby 100% non mixte où Emmanuel Macron dans la vidéo, c'est un gars en costard entouré de gars en costard ou de gars en tenue de rugby. Donc il y a vraiment zéro présence féminine. Et je pense que s'il célébrait... Ok, Macron qui célèbre la victoire de l'équipe féminine de football française, par exemple, à la Coupe du Monde de football, je pense pas qu'il fait un cul-sec de Corona. Peut-être qu'il boit un petit verre de vin, mais je pense pas, ou qu'il sabre le champagne, mais je pense pas qu'il fait un cul-sec de Corona. Parce que c'est quelque chose qui est vachement dans une masculinité traditionnelle, dans une masculinité hégémonique, dans un truc de performance. Et aussi, voilà, une Corona, c'est une bière, c'est pas une boisson féminine, c'est une boisson d'homme. On fête le match avec une bière. Peut-être que Macron, dans la vie, il aime pas la bière, il aime pas trop la Corona, mais c'est pas grave, il y a tout un symbole derrière cette vidéo. Et alors, c'est pas grave, hein, c'est pas un sujet d'État, on va pas y passer 18 ans, mais je me disais que c'était intéressant de vous en parler, de voir un peu ce que vous en dites, et de voir un peu ce que Reddit en dit aussi, puisque comme on l'a dit, sur Reddit, il y a plutôt une majorité de mecs, donc ils vont peut-être pas avoir ce prisme que moi j'ai, où je vois ça et je me dis, mais quelle ambiance de couilles, franchement. Mais par contre, c'est aussi une des... Enfin, Reddit France est plutôt critique envers le quinquennat actuel d'Emmanuel Macron, et son précédent. Donc on n'est pas sur un repère de macroniste. Mais donc il y aura peut-être des avis négatifs sur Macron, mais est-ce qu'il y aura des réflexions sur le côté un peu mascu de ce moment? Je ne sais pas. Krogstad nous dit « Troisième mi-temps, tradi mascu, là il y avait le président, mais sinon ça partait en biscotte. » Oui, j'ai vu des vannes sur la biscotte, évidemment. Si vous ne savez pas ce que c'est que le jeu de la biscotte, ne googlez pas et restez content et contente dans votre innocence. Voilà, vous méritez mieux. Madzina nous dit « Tu bois ton verre tranquille, ok, tu cul sec après t'être pavané sur le terrain, mais... » Krogstad nous dit « Chirac tenait hyper bien l'alcool, donc il se faisait des tours du salon de l'agriculture qui mettait KO ses attachés politiques ou ses adversaires. Le mec buvait sur tous les stands. » Mais encore une fois, c'est pas le côté « Macron boit de l'alcool, il y a bah, en pleine contestation sociale de la réforme des retraites, il était en déplacement, je crois que c'était à Kinshasa, il a bu de l'alcool dans la rue, je crois que c'était une bière aussi. » Comme mon mec me l'a rappelé quand on en a parlé, il fait le salon de l'agriculture, il boit du vin. C'est le président de la France, bien sûr, il boit de l'alcool et c'est un geste politique de boire de l'alcool. Mais là, il boit une bière. En plus, c'est pas une bière française, la Corona. Tu vois, il aurait pu être en mode petite bière IPA toulousaine pour soutenir les petits producteurs, mais non, il est en mode La Familia, ok, Dominique Toretto. Et il le cul sec avec cette ambiance de rugbymen derrière qui sont là en mode. Et en fait, je pense pas qu'il y a un monde où une meuf pourrait faire ça. Je pense pas qu'une présidente pourrait faire ça sans avoir beaucoup de réactions négatives sur le manque de féminité de ce moment. Et là, du coup, je trouve que ça confirme que Macron, il joue sur la masculinité, la virilité de ce moment. Et c'est pas grave, ça fait partie de ses outils de communication politique, mais c'est bien, je pense, de l'identifier comme tel. Et pas juste comme, ah ouais, il boit une bière avec les joueurs parce qu'ils ont gagné, ils sont contents. C'est pas juste il boit une bière avec les joueurs, je pense. Alors Améthyste nous dit « Salut Mimi, je te suis depuis des années à travers tes divers podcasts, merci beaucoup. Je suis un gars et je me rends compte que t'as participé à mon éducation à travers plein de tes takes et tu m'as aidé à être un humain plus cool, donc merci encore. » Mais merci, merci Améthyste, c'est trop chou, merci beaucoup. Après je rougis, arrêtez. Alors Jalod nous dit « Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la masculinité? En quoi est-ce toxique? Pour moi c'est juste toxique mais à cause de l'alcool. » Alors en effet, il y a le fait de consommer de l'alcool. Alors j'ai dit que, enfin, encore une fois, il est président de la France, on est un pays qui a une tradition du vin, de l'alcool, ça fait partie de notre économie, ça fait partie de notre terroir, ça fait partie de notre identité culturelle. Je pense que c'est très compliqué de calibrer le rôle que doit avoir un président ou une présidente dans valoriser le savoir-faire français en matière de viticole, etc., mais en prenant en compte l'aspect danger de santé publique que représente l'alcool. Et par exemple, faire un cul sec, c'est pas une consommation d'alcool raisonnée et raisonnable. C'est peut-être là qu'on peut parler de masculinité toxique. Il y a un aspect... En fait, j'aime pas trop dire masculinité toxique, c'est une discussion qu'on a en cours avec Fab. En fait, le terme est peut-être un peu braquant, mais en tout cas, dans les aspects dangereux des codes de la virilité et de la masculinité, il y a la valorisation de comportements à risque. Et c'est en partie ce qui justifie l'écart de longévité entre les hommes et les femmes. Les hommes meurent plus jeunes que les femmes en moyenne, en partie parce qu'ils ont plus de comportements à risque, à savoir conduire vite, consommer beaucoup d'alcool, manger beaucoup de viande rouge, fumer du tabac, etc. Ne pas aussi consulter pour des problèmes de santé mentale, ce qui peut du coup avoir un... Ça peut littéralement réduire sa vie, par exemple d'avoir une dépression qui n'est jamais traitée ou des choses comme ça. Se tourner vers de l'abus de substances, avoir des comportements violents de type se battre en pub, enfin se battre avec des inconnus, qui est plutôt un truc que plutôt des hommes font. Ou j'ai vu passer sur Twitter, il y a un truc, enfin c'est quasiment un peu une vanne chez les meufs féministes, même si c'est pas très marrant, c'est le cliché du mec qui tape dans le mur quand il est vénère, quoi. Alors moi, mon avis, c'est que si tu tapes dans le mur, un jour, ça va être ta tête. C'est vraiment, faut partir quand les gens sont pas capables de gérer leurs émotions à ce point-là. C'est mon avis personnel. J'ai une copine, son mec s'était pété la main en tapant dans un abribus, ça a été là. Bah maintenant, tu t'es pété la main. En plus, il était kiné, le gars. Genre, c'est son outil de travail, sa main. Enfin bref. Et j'ai vu quelqu'un sur Twitter, une personne du personnel soignant qui disait « C'est pas pour rien qu'aux urgences, on appelle ça la fracture du connard, quoi. Le mec qui tape dans un mur, bref. » Donc il y a en fait une partie des aspects a priori dangereux et qui selon moi devraient être challengés et idéalement disparaître à terme des codes de la virilité, c'est la valorisation de comportements à risque. Et le binge drinking, le cul sec, etc., c'est pas de l'alcool plaisir, c'est pas de l'alcool gastro, c'est pas de l'alcool terroir, c'est pas de l'alcool légère détente, c'est de l'alcool binge drinking. Et c'est entre autres pour ça que c'est un comportement qui est valorisé chez les mecs ou... Parce que les comportements qui se mettent en danger physiquement sont souvent valorisés chez les mecs. Et d'ailleurs, si l'écart de longévité entre les hommes et les femmes est en train de se réduire, c'est pour diverses raisons, notamment les avancées de la médecine, etc. Mais aussi, malheureusement, j'en fais partie, hein, mais les femmes adoptent des comportements à risque qui avant étaient réservés aux mecs. Il y avait toute une période de l'humanité qui n'est pas si lointaine, où une femme qui fume, une femme qui boit beaucoup, etc., c'est pas des choses qui sont non seulement bien vues, mais c'est parfois des choses qui lui sont littéralement inaccessibles. Si la femme, il n'y a pas d'alcool chez elle et qu'elle ne, légalement, elle ne peut pas consommer d'alcool au bar, au pub, parce que c'est interdit aux femmes, ou c'est des lieux de socialisation masculine, en fait, elle peut pas se bourrer la gueule, quoi. Alors que là, l'égalité, c'est aussi se bourrer la gueule, mais du coup, avoir aussi les problèmes de santé qui vont avec. Donc voilà, Jalod, pourquoi je pense qu'il y a un aspect masculinité à cette vidéo de Macron qui ne fait pas pour moi que célébrer une victoire d'une équipe française, mais qui la célèbre de façon très masculine. Et Modem nous dit, en plus, une femme qui finit une bière cul sec, c'est souvent mal vu ou vu comme un truc de fou en mode « Ah là là, cette meuf, elle est tellement différente ». Et alors Cadlo, la fameuse personne qui dit, en tant que Toulousaine, l'ambiance de troisième mi-temps, ça m'angoisse, nous dit. Donc Cadlo qui est une femme. Les rugbymen sont pour moi la caricature de joueurs de football américain au lycée, à fond dans la masculinité toxique. C'est festif, certes, mais dès que ça boit, ça sort les muscles, et il y a une ambiance très chelou qui tend vers la violence. En gros, tu résumes très bien. Ok, je vois, moi c'est ce que... Alors moi, je viens plutôt du sud-est, j'ai grandi dans la Drôme, qui est la limite de la Provence. Genre, un peu au sud de la Drôme, ça commence à être les criquets, la lavande, les oliviers. Et du coup, dans le sud-est, il y a les férias. Alors pas dans la ville où j'ai grandi, c'est un tout petit peu trop au nord, Valence. Mais Nîmes, etc., il y a les férias qui sont donc des moments, alors c'est des villes où il fait très chaud, et en été, c'est des genres de fêtes populaires où tous les bars ont des terrasses, et enfin, en gros, tout le monde est dans la rue, il fait 1000 degrés et tout le monde picole. T'as aussi de l'artisanat local, des aspects culturels de la ville ou de la région qui peuvent être, enfin, ou du département qui peuvent être amenés. T'en as avec aussi les villes où il y a la corrida, les spectacles de taureaux, parfois des chevaux et tout. Enfin, bref, pour moi, la feria, il n'y a pas plus angoissant dans ma vie qu'une feria. C'est vraiment genre. C'est la moiteur et les mecs bourrés. Et en fait, les mecs bourrés, c'est un vrai truc, parce que je pense qu'une feria 100% féminine, il y aurait toujours l'aspect moiteur. Mais en fait, j'ai jamais vu une meuf bourrée taper dans un abribus et se péter la main. J'ai jamais vu une meuf... Enfin, j'ai rarement vu une meuf bourrée se mettre à se battre avec une autre meuf pour aucune raison. Enfin, juste, il y a moins de violence et d'agressivité physique. Pas parce qu'on est génétiquement différent, mais parce qu'on n'est pas socialisé pareil. Et en fait, même bourré, on agit en fonction de notre socialisation genrée. Donc je vois bien l'ambiance, dès que ça boit, ça sort les muscles et il y a une ambiance très chelou qui tend vers la violence. Ce côté genre, il fait chaud, la pression elle est montée, Et c'est pas sûr que ça va déraper, mais tout le monde est un peu prêt à déraper, quoi. On est à pas grand-chose de... Au pire, on se cogne. Quand j'étais ado et étudiante, je fuyais les rugbymen à fond et j'évitais leur bar chez Tonton. C'est marrant parce que, de mon point de vue de meuf loin du sud-ouest et loin du sport, je sais qu'il y a longtemps eu cette idée reçue et qu'elle circule encore que le football, c'est un sport de gentlemen joué par des voyous et le rugby, c'est un sport de voyous joué par des gentlemen. Donc cette idée que le foot, les joueurs de foot sont... voilà, ils cabotinent, ils se tapent dessus pendant les matchs, ils font des ils sont bling bling, etc. Là où le rugby, c'est un sport certes de voyous parce qu'on se cogne dessus pendant, c'est beaucoup plus physique que le foot, mais joué par des gentlemen parce que c'est que sur le terrain, parce qu'à côté on est des hommes droits et tout. Et je suis là, ouais, à la fin vous êtes des sportifs professionnels qui traînaient entre couilles 95% du temps. Je pense pas que les valeurs du sport machin. Alors il y a peut-être un petit peu moins de thunes dans le rugby que dans le foot, ce qui change peut-être un petit peu. Mais bon. Gwynaman dit « En tant que femme, si j'étais dans cette pièce, je flipperais. » Et alors ouais, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la vidéo. Il n'y en a peut-être aucune. Il n'y en a aucune, hein. Alors, voilà, le premier qui trouve une femme a gagné. C'est qui derrière? On dirait pas Philippot. Ouais, bah non. Même pas les femmes, compagnes, filles... accompagnatrice des joueurs qui serait là peut-être pour célébrer. Non, il y a que de la bonne couille dans la vidéo, quoi. Tout à fait. Merci Lollipopix pour le sub. Désolé, je suis en train de remonter le chat, donc je vois pas les subs au moment où ils arrivent, mais merci beaucoup.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
L'attrait du risque, ça fait partie de la masculinité toxique. Voilà, c'est un peu mon idée. Amétis nous dit donc, en Belgique, un cul sec, on appelle ça l'affond. Et c'est bien de la merde, ça met super mal à l'aise. Dans les milieux étudiants belges, c'est la norme et on a un gros problème de santé publique par rapport à ça. Ouais, bah dans les milieux étudiants, et pas que étudiants, français aussi, hein, le binge drinking, le cul sec, c'est les plateaux de shots, les mètres de shots et tout. Moi, je suis très contente en fait de pas avoir fait ma vie étudiante. Alors, je dis pas qu'il y avait pas d'alcool et qu'il y avait pas trop d'alcool dans ma vie étudiante. Il y en avait trop. Mais j'étais pas dans les groupes, en fait, dans les BDE, dans les structures organisées par la fac. J'ai juste fait la fac, donc vraiment 1500 personnes. Tu trouves des gens qui te ressemblent parce qu'il y a 1500 personnes. Il y a de quoi. Mais t'es pas obligé. C'est pas une petite école où c'est bon si tu vas pas au week-end d'inté, t'auras plus jamais de potes parce qu'en fait le week-end d'inté, t'as genre 300 pélos qui vont sur 1500, donc tranquille. Mais du coup, j'étais pas du tout dans les bails BDE et tout. Et je pense sincèrement que j'aurais probablement été victime d'agression sexuelle si j'étais allée en week-end d'inté ou un truc comme ça. Je n'étais pas en mesure, moi, de tenir l'alcool assez bien pour ne pas finir trop torché pour consentir ou me défendre. Et je ne peux pas parier sur 100% des mecs présents à ces événements sont conscients de l'importance du consentement et tout. Donc, nos regrets, finalement. Cadlo toujours nous dit « Quand tu es dans un club de rugby, tes coéquipiers, c'est ta famille. C'est un boys club avec tous les mauvais côtés. Quand j'étais en seconde, ma classe, le bon tiers, faisait partie de la même équipe de rugby et c'était un enfer. Ils étaient harceleurs envers moi et d'autres personnes dans la classe, voire du même niveau, car les autres membres de l'équipe étaient dans les autres classes. » Ah oui, ok, ça fait un esprit de clan qui, malheureusement, l'esprit de groupe et l'esprit d'équipe, hein, finalement, peut avoir évidemment de très bons côtés, mais l'esprit de clan en a aussi de très mauvais. Donc désolé que ça te soit arrivé. Ah, Matmoun nous dit « J'avoue, je suis une meuf et j'ai déjà fait un trou dans un mur. » Ok. La testo nous rend comme ça aussi, on pourra jamais comprendre vos pics hormonaux et vous de même. Je sais pas, en vrai, Jalod, à quel point c'est... En fait, c'est pas comme si on n'avait pas des pics de colère, c'est pas comme si on n'était pas vénère. Genre, le monde nous roule dessus, Darmanin est ministre, et une fois par mois, pour la plupart d'entre nous, on a genre mal... Et on n'est pas bien, et on a des pics hormonaux qui parfois nous aggravent cette colère, hein, le fameux « mais alors t'as tes règles hein ?» Bah en fait, des fois, ouais, j'ai mes règles, et du coup, guess what ? J'ai mal, j'ai chaud, j'ai un petit peu envie de bégère, et aussi, hormonellement, bah, j'ai des pics qui font que oui, je suis en colère, et ça n'aide pas quand tu dis ça. En fait, les femmes ne sont pas ignorantes aux pulsions de colère et de rage et de violence, c'est juste qu'on nous a appris à ne pas les exprimer ou à les exprimer différemment, et on n'a pas appris au mec, et on a appris au mec que c'est aussi une forme de statut social, en fait, d'être le mec qui tape dans les murs, quoi. Je crois que je comprends que je pourrais jamais savoir ce que c'est que de vivre avec, avec une dose de testo comparable à celle d'un homme cisgenre, où ce sera jamais possible pour un homme cisgenre de comprendre c'est quoi le PMS. Mais fondamentalement, on parle aussi d'émotions, quoi. Les émotions qu'on a, c'est les mêmes. Et je pense que c'est un peu facile de blâmer la testo pour dire on peut pas se retenir de. En fait, si c'était le cas, il y aurait zéro mec qui peut se retenir de taper dans les murs. Mais guess what, il y a des mecs qui tapent pas dans les murs. Donc maybe c'est possible. Ça veut pas dire qu'ils sont jamais en colère, quoi. Un jour, faudra qu'on se pose sur la violence masculine, nous dit toujours Jalod, et pas dans le sens, faudrait la supprimer. Je suis très contente de ma capacité à exercer de la violence. Faudrait qu'on la rationalise, faut pas que ça déborde sur les joues normaux. Je suis très d'accord, et je pense que tous les êtres humains ont une part de colère et de violence entre eux, qui est non seulement légitime, mais précieuse, parce que la colère, c'est une alerte. C'est là quelqu'un a outrepassé des limites qui sont mes limites personnelles. Quelqu'un est un danger pour moi. La colère, c'est aussi une protection. Et la violence, ça peut être une violence protectrice de soi, de ses valeurs, de son environnement, des gens qu'on aime. Ça peut être l'expression d'une lutte contre l'injustice. Ça peut être, on parle de violence dans les luttes. On parle de violence quand il y a des gens qui cassent des abribus avec des parpaings pendant une manif, c'est une violence qu'on peut estimer légitime et qui ne devrait pas appartenir aux hommes ou aux femmes, mais qui devrait, chaque personne normalement constituée a une capacité en elle à la violence, à la colère, à la destruction. Et en fait, je suis d'accord qu'il faut juste, là où on a appris aux meufs à l'étouffer, ce qui fait que guess what, les meufs, elles pètent un câble, et on a appris aux mecs à trop l'exprimer, ce qui fait que guess what, les mecs, ils pètent un câble, je pense qu'on devrait collectivement apprendre à utiliser. Qu'est-ce qu'on fait de cette violence quand elle pointe en nous ? Comment on peut l'utiliser en évitant de se faire du mal ? Parce que, ce fucking kiné qui se pète la main en tapant dans un abribus, potentiellement, s'il le fait 2-3 fois dans sa vie, il sera plus si bon kiné. Et encore, il est pas pianiste. À ne plus faire du mal aux autres, parce que taper dans un mur, c'est parfois pas très loin de taper sur quelqu'un qui est à côté. Et puis de juste peut-être faire quelque chose de plus constructif avec cette violence que taper dans un mur. Ah oui, c'est vrai. Et Modem nous rappelle, au sujet de la comparaison foot-rugby, c'est un problème de lutte des classes. Le foot, c'est le sport des sports dans les milieux défavorisés. Donc, c'est pour donner une mauvaise image aux pauvres qu'on donne cette mauvaise image au foot. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui, je l'avais étudié en socio. J'ai fait un peu de socio à la fac. Anna June Barker, donc pour plutôt revenir sur le sujet consommation de l'alcool, on a plein de sujets en même temps, j'aime trop. Dit, j'habite Louvain-la-Neuve, ville belge très étudiante, et ça va mieux maintenant, mais tous les ans, il y avait des morts durant les baptêmes, des bizutages hardcore à base d'alcool, et personne ne disait rien car c'est culturel. Oui, je me souviens quand je bossais chez Mademoiselle, on a beaucoup, beaucoup parlé bizutage, harcèlement scolaire, week-end d'intégration, comment faire la différence, week-end d'intégration, bizutage, tout ça, avec des paroles de psy, avec des personnes de gens de BDE, de gens qui l'ont fait bien vécu, de gens qui l'ont fait mal vécu, etc. Tous ces trucs d'initiation un peu chelous. Malheureusement, on parlait aussi des personnes qui décèdent lors de bizutage ou d'intégration. En France, on a un truc qui s'appelle les faluchards, qui est aussi un genre de groupe étudiant. Alors, je sais pas si c'est exactement pareil que les baptêmes, mais c'est un. Il y a quand même toujours beaucoup d'alcool, quoi, dans ces trucs. Et je suis pas la dernière pour être bourrée. Je suis rentrée du bar un peu bourrée samedi soir. Mais je suis pas pour encourager des gens qui ont entre 17 et 20 ans à boire très vite et très fort des choses très alcoolisées. Voilà, je pense que j'aurais aimé. J'ai déjà pas trop fait ça, ça va. J'étais pas trop dans un environnement du binge. Mais j'aurais pu l'être et je pense que j'avais déjà quand même. J'ai quand même traversé et je pense que j'ai toujours encore quelque part un rapport à l'alcool qui est pas 100% sain. Et ça aurait été pire si j'avais été dans les BDE and shit, hein. Maria Chou nous dit « Toulousaine et originaire du sud-ouest-sud-ouest, d'où le X basque, j'imagine, dans ton hâte. J'ai grandi avec ces boys club rugby autour de moi, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais complètement hermétique aux meufs. C'est vrai que c'est un peu les jocks du coin. Donc ouais, les jocks, c'est les fameux joueurs de foot américains. Là, on a vu la bande-annonce de Lolita malgré moi, c'est vraiment cette énergie, quoi. Les fameux quarterbacks, cool kids, qui maltraitent un peu les autres, quoi. Prout nous dit, exemple en direct, mon gars est en train de déplacer nos chèvres, je vis ma best life de campagnarde, et je l'entends gueuler et insulter la terre entière car il y a des cailloux qui l'empêchent de planter le piquet. Au lieu de se dire, ok c'est pas le bon endroit, il insiste et insulte un putain de poteau, je lui ai proposé de l'aider et 2 minutes après c'était bon. Je sais pas si c'est un truc de masculinité nulle ou juste un moyen de sortir sa colère, mais ça me dépasse. I get it. Et Maria Chu nous dit « Les comportements à risque et potentiellement violents étaient vachement plus excusés qu'en réalisés au sein de ces groupes sociaux, donc comme les équipes de rugby, ou des moments de socialisation qui étaient associés, genre troisième mi-temps ou soirée de rugby aux fêtes du village. » Oui, il y a peut-être ça aussi, genre, t'arrives dans un bar un mardi à 18h, tu prends un mètre de shot et tu tapes dans le mur, les gens ils vont dire « Mec, peut-être calme-toi, peut-être tu as un problème. » T'arrives dans un bar au milieu d'une feria, tu prends un mètre de shot avec tes potes et tu tapes dans le mur, les gens ils vont dire « Oh là là, quel homme qui s'est fêté l'été et sa victoire, quoi. » Donc voilà, écoutez, Macron, une bière et une bonne discussion sur les masculinités. Et voilà, avoir un président homme, rappelons qu'on n'a toujours pas eu de présidente, lol. Attention à la patte de singe et au « be careful what you wish for ». Hâte d'une femme présidente qui n'est pas Marine Le Pen néanmoins, voilà. Avoir un président homme entouré d'hommes qui fait un cul sec de bière pour célébrer la victoire d'une équipe de rugby. C'est un président qui rentre dans des codes de virilité très traditionnels. Et c'est pas anodin, parce que les sujets d'égalité passent aussi par les rôles de genre. Qu'est-ce qu'on pense être des comportements associés à tel ou tel genre ? Macron, de par son rôle de chef de l'État, peut aussi influer sur comment, au niveau du pays entier, on voit les genres. On développe des initiatives autour des stéréotypes de genre, mais aussi autour, pourquoi pas, bah parce qu'on en parle aussi, hein, de la consommation d'alcool et des risques de la consommation à outrance ou de la consommation peut-être en binge ou en cul sec d'alcool. Après, hélas, je dis pas que vous buvez une Corona à cul sec, vous allez mourir, hein. Mais bon. Qu'est-ce que ça a dit sur Reddit ? Alors, on a François sur Reddit qui est Big Crush Tats Energy et qui dit « Je me rends compte que je suis vieux quand ma réaction, ça a été « Oh, c'est vrai, c'est la bière préférée de Chirac, la Corona. » Et quelqu'un répond « Je pense plus à Fast and Furious pour la Corona. » Moi aussi, clairement, oui. Donc, je savais pas, mais dans les rapports que Crush Tats tirait entre Macron et son cul sec et Chirac, il y a aussi que c'est leur bière, c'est la bière préférée de Chirac, c'était. Ah, quelqu'un sur Reddit dit « J'étais au match, il s'est fait joliment huer à son entrée sur le stade pour saluer les joueurs. Malheureusement, la réalisation ne l'avait pas mis sur les grands écrans et on s'est tapé des random shots des joueurs et les bouhous se sont rapidement fait couvrir par de la musique et des applaudissements enregistrés. Idem pour la remise des médailles où on n'a tout simplement rien eu sur les grands écrans pendant que les joueurs passaient devant lui, certainement pour éviter de nouvelles huées. Ceux qui ont vu la retransmission, ça donnait quoi ?» Quelqu'un répond « À la télé, on a entendu qu'il se faisait huer à son entrée sur le terrain et on a bien vu le président du club de La Rochelle se sentir gêné. Et comme tu le dis, ça a vite été couvert par d'autres bruits ou un savant mixage sonore à partir du moment où il a commencé à saluer les joueurs. » Quelqu'un dit « J'ai cru entendre dans les gradins le slogan de manif « Et on ira jusqu'au retrait ». Peut-être que j'ai mal entendu et que les fans chantaient « Jusqu'au trophée ». Pas sûr d'avoir entendu ça, peut-être un petit groupe qui a pu être capté par les micros, voilà, on n'est pas sûr. Voilà, et après les gens ironisent sur le fait que c'est pas ça qui va leur donner envie de voter pour lui. Plutôt d'accord. Je vous relis un petit peu sur le chat et après on passera au dernier sujet. Qu'on ira piocher, tiens, sur Ask Meuf, voilà. Donc on parlera pas des gosses avec leur smartphone, c'est pas grave, on en a pas, on s'en fout. Jalod nous dit « La testo est une hormone de puissance. Quand t'as un pic de testo, t'as un flot sanguin qui triple, un battement cardiaque multiplié, tes sens sont décuplés. Honnêtement, c'est une sensation proche d'un orgasme quand tu le maîtrises. Tous tes sens accrus, c'est génial. Une personne qui n'a pas l'habitude et donc eu un apprentissage de cette expérience, tu rajoutes ça à une couche de colère, c'est explosif. Faut dire aux gosses que c'est normal, mais donner des espaces pour ça. » Écoute, je ne suis pas chimiste, etc. Donc je ne vais pas me prononcer sur les effets immédiats et exacts de la testo sur l'organisme. Mais oui, je pense qu'on est d'accord sur que ça soit spécifique à la testo ou juste en général les pics de colère, de violence, d'agressivité, parfois créative aussi, qu'on peut ressentir. Il faut juste apprendre à en faire des choses qui ne sont pas dans l'autodestruction ou la destruction. Voilà. Ah bah, petit prout au sujet de son mec, donc Crush Tats disait « Je trouve ça rigolo de le voir l'énerver sur son caillou », nous dit « Ça me met mal de le voir comme ça pour un truc pour lequel il ne peut rien faire. Je me dis dans quel état il va se mettre le jour où il y a un vrai truc pour lequel se mettre dans un tel état. Mais vu de l'extérieur, ça peut être absurde. Après, j'ai connu des gens, y compris des gars, qui pétaient des câbles pour les petits trucs, mais qui étaient d'un stoïcisme et d'une efficacité folle en moment de crise. Il y a aussi ça, c'est que je pense qu'on apprend aux mecs qu'en cas de crise grave, genre... y a un feu dans la maison, on a un accident de voiture et tout, bah c'est à eux de gérer, c'est à eux d'être capables, compétents de porter la survie de leurs proches. On leur apprend pas à gérer les petits désagréments de la vie, par contre. Donc écoute, peut-être que si un jour vous avez une vraie raison de vous énerver, genre, je sais pas, tu rentres, vous vous êtes fait cambrioler, vous vous êtes fait voler vos chèvres. Oh my god. Bah, peut-être que toi, tu vas t'énerver, petit prout, et que lui, il sera là. Ok. On va procéder avec méthode et que tu seras en mode mais comment t'es calme alors que l'autre jour il y avait un poteau qui tapait un caillou et t'as pété un câble, mais parce qu'en fait c'est pas grave, on peut s'énerver sur le poteau et ça a fait de mal à personne et ça extériorise. Les chèvres, c'est grave, I guess. Anna June Barker nous dit: je suis absolument pas la dernière à boire TMTC, mais le fait que l'école même entourage le baptême parce que ça fait partie de la culture beige, plus évidemment des agressions sexuelles chaque année, what the holy fuck. Indeed. Alors, Charte nous dit: Rousseau, si elle considère que c'est intéressant pour son public d'avoir d'encore plus forts effets de distinction avec une grosse partie de la population, c'est tellement ultra répandu, même dans les milieux petits bourgeois, BDE, d'école d'ingénieurs, elle parle vraiment aux 5% de sa sociologie. Macron fait un coup de com' quand tu vois comment les gens lui tombent dessus d'une façon nulle à chier. Alors honnêtement, les gens tombent d'une façon nulle sur Sandrine Rousseau tout le temps, peu importe si Macron fait un truc ou pas. Donc j'entends ce que tu veux dire. Je suis pas sûre que le tweet de Sandrine Rousseau soit intelligible pour le plus grand public, parce que la preuve, ça fait genre bien 20 minutes qu'on parle de pourquoi c'est une représentation d'une forme de masculinité hégémonique, ce petit moment de vie d'Emmanuel Macron. Et en fait, en un tweet, on n'a pas le temps d'expliquer ça. Après, bah, y a aussi une partie des gens qui suivent et qui votent pour Sandrine Rousseau qui ont ces bails-là, qui ont ce background-là, de stéréotypes de genre et tout, et qui vont le comprendre. Est-ce qu'elle ne devrait pas s'adresser à eux parce que, en gros, c'est quoi le bon ratio ? Je suis d'accord avec toi, c'est clivant. Elle fait de la com politique sur un move de com politique, car c'est une personnalité politique. Mama Unicorn nous dit: franchement, je suis une meuf, je panique au moins de petits trucs, mais quand il y a un gros problème, c'est en deux étapes. Je panique 10 minutes à fond, et après, je suis ultra calme pour gérer la crise. Y a ça dans Lost. Y a un mec qui explique qu'il est neurochirurgien et qu'à sa première grosse opération, il a mal fait une incision. Et alors, je suis désolée, ça va être un peu graphique, mais je vous le dis parce que c'était il y a vraiment longtemps, Lost, mais ça m'est resté en tête. Il dit: les nerfs de la personne se sont répandus comme des vermicelles. Et bah, faut les remettre et refermer, quoi. Et il a dit: j'ai compté jusqu'à 5, je crois, ou 10. Et je me suis dit: après, je le fais. Et du coup, il se laisse. Il compte jusqu'à 10 et il panique pendant 10 secondes. Enfin, 10 secondes. En comptant jusqu'à 10, il panique. Et après, il est là. Ok, let's go. Je fais ça parfois dans la vie. Je panique 10 secondes et après, let's go. Ok, c'est la fin du sujet masculinité. Du coup, on va quand même finir en allant sur Ask Meuf, en allant voir un peu qu'est-ce que ça demande aux femmes et qu'est-ce que ça raconte les femmes de nos jours. Ok. On part sur, du coup, le topic. Êtes-vous également fatigué de jouer les psys avec les hommes ? Je vous lis la personne qui nous dit, Chipolata Fernandez, qui nous dit: je me présente rapidement. Femme, la cinquantaine, genre belle fleur fanée qui s'en tape, mariée depuis 30 ans avec l'amour de ma vie, maman de deux filles adultes slash en fin d'adolescence, équilibrée, heureuse et pas du tout misandre, mais réellement féministe. J'ai vraiment du mal avec les attentes masculines concernant un rôle de maman universelle, comme si le fait d'être une femme nous désignait de facto pour prendre soin des hommes et de leurs égaux, les proches, les moins proches, jusqu'aux interlocuteurs sur Reddit. Inspirée par plusieurs interactions que j'ai eues aujourd'hui, je suis fatiguée et pas du tout volontaire pour endosser ce rôle que beaucoup d'hommes nous assignent naturellement. Anecdote poussée à son paroxysme qui date d'il y a quelques années, mais qui m'a définitivement guérie du rôle de sauveuse de la gente masculine. Mon mari avait un copain, gentil mais bizarre, le genre célibataire involontaire à qui rien ne réussit, rien d'assez bien pour lui, que ce soit en termes de femme, de job ou autre. Son leitmotiv: je mérite mieux, mais je ne fais rien pour que ça s'améliore. À côté de ça, serviable et toujours présent en cas de pépin, mais le malaise n'est jamais bien loin. J'ai tout fait, j'ai tout supporté. Je passe les détails, mais vers la fin, il s'était séparé de l'unique copine que je lui ai jamais connue. Il m'appelait la nuit. Je prenais le temps, bien qu'en tant que maman de jeunes enfants, ce n'était pas évident. Il m'appelait au boulot, je prenais le temps, bien que ça m'ait attiré des ennuis. Il avait entrepris de passer tous les samedis après-midi chez moi pendant que mon mari, son pote, était au boulot, mais... Alors désolé, j'interromps ma lecture à ce moment-là, pour dire on va parler d'être la psy de son entourage et tout, mais on va peut-être parler aussi d'être sa propre psy et d'apprendre à dire non dans la vie. Le gars, c'est pas ton pote, c'est le pote de ton mari, et il t'appelle la nuit alors que t'as deux enfants, mais c'est... Allô ? Ah, c'est toi, Michel ? Tiens, c'est ton pote Michel. Moi, je me recouche. Bizarre, déjà, ouais. Maxi Buche dit bizarre. Je reprends le message Reddit. des heures de plaintes et de c'est pas juste. Pas une seule fois, il ne m'a demandé comment j'allais. Mais arrêtez de vous faire rouler dessus. Il prenait mal le fait que je m'occupe de mes filles ou que je fasse mon ménage pendant qu'il me parlait parce que je me devais de lui accorder toute mon attention. Un samedi est arrivé où j'étais fatiguée, malade. Les filles avaient besoin de moi alors mon énergie était limitée. Il a sonné à l'interphone, comme d'habitude. J'avoue que ce n'était pas très courageux, mais j'ai fait semblant d'être absente. Mais le gars, il vient chez où ? Il a quand même réussi à pénétrer dans l'immeuble, sonner à la porte. Au secours, j'ai fait la morte. Aucune once d'énergie à consacrer à ce trou noir émotionnel ce jour-là. Je le connaissais, il se serait quand même imposé d'une manière ou d'une autre. Je l'ai vu sur le trottoir par la fenêtre, il observait l'appartement. Le même soir, mes volets ont été criblés d'impact. C'était un grand fan de paintball et compagnie, je sais que c'était lui. Il m'a ghosté et harcelé par message. Non mais d'accord, mais là c'est pas normal en fait comme anecdote. Ok, il y aura deux sujets. Il y aura cette anecdote de « Waouh, crazy !» Et on parlera aussi de faire la psy des hommes, mais parce que je suis là, c'est pas relatable en fait comme... Ok. Donc la personne dit « Ce n'est pas la seule histoire qui m'est arrivée avec un homme à qui j'ai tenté de venir en aide, mais c'est la pire. » Bah oui, j'espère. Pourquoi les hommes prennent-ils les femmes pour des psys gratuits ? Qu'est-ce qu'on leur doit au-delà de la simple amitié dans le cas qui nous occupe ? Pour quelles raisons certains estiment-ils que c'est notre rôle ? À lire vos propres expériences, mesdames. Merci d'avoir lu la mienne. Aucune réponse de la part des hommes, merci. Ok, alors je vous vois sur le chat en mode « Attends, non, bonjour, non, l'angoisse, toxique ». Bizarre l'ambiance, le mode avion qui sauve des nuits, c'est pas faire la psy, c'est être victime de harcèlement, le gros forceur, au secours. Beaucoup d'émotes, main courante, c'est du pénal. Ouais, ok, donc on est sur un thread d'horreur. Ouais, on est un peu sur un thread d'horreur. Alors, cela dit, ok, je me disais peut-être que du coup on va parler entre nous et pas trop lire Reddit, parce que peut-être Reddit va surtout réagir à cette anecdote en disant « Non mais girl, il est ma boule », et du coup, bah peut-être pas trop au sujet qui nous occupe. Mais non, parce que le top commentaire sur... Ask Meuf est quand même intéressant et parle de genre, puisque c'est quelqu'un qui répond. Le fait que ton histoire se termine par des volets criblés de balles, ok du paintball mais quand même, ça amorce un point que je trouve important. Si ils, donc les hommes en groupe social global, bien sûr, il y en a des biens, n'ont pas ce qu'ils veulent, souvent leur solution est la violence. On parlait de taper dans les murs et tout, on y revient. Et je suis presque sûre que beaucoup endossent le... rôle de psy par peur, même inconsciente, de leur réaction si on ne le fait pas. Pas envie de débattre ou de se battre si on rembarre un homme, car on n'a pas envie d'écouter ses problèmes, alors on le fait. Beaucoup vont te dire que c'est un cas particulier, mais ça fait beaucoup de cas particuliers sur l'échelle des témoignages de femmes qu'on croise dans nos vies et sur Internet. Et une autre femme répond, le simple fait que parfois, en tant que jeunes ados ou adultes, on se soit senti obligé d'écouter un vieux mec parler de ses soucis ou de ses désirs sans oser lui dire que c'était gênant, c'est un conditionnement social. Même si la violence n'est pas physique, si on a le malheur de dire non ou de mettre des limites, on peut aussi se faire rabaisser, juger, insulter. On est égoïste, méchante, on ne se met pas assez à la place des hommes, mais en vérité, il y a très peu d'hommes qui feraient de même pour nous. Eux perçoivent souvent la confession comme une discussion de bonne femme, une sorte de passage obligé, supporter madame pendant ses confessions tout en répétant « oui, oui » ou une confession à manipuler contre nous. En effet, et c'est vrai que... Alors, deux exemples. Exemple, harcèlement de rue, harcèlement dans l'espace public, ça arrive, en tout cas dans mon expérience, régulièrement, que y a un gars, t'es là, disons, t'as oublié qu'on vivait dans le patriarcat et tu t'es dit « je suis une femme et je vais m'asseoir sur un banc et ne rien faire ». Erreur fatale, car tu es maintenant une proie, mais bon, c'est pas vrai. Faites ce que vous voulez, bien sûr, profitez des bancs, sortez en crop top, y a pas de problème. Mais être une femme statique dans l'espace public augmente le risque que le harcèlement sexiste tombe sur toi. Il y a un gars, il vient... Et nani nana, il commence à te parler, ah machin, d'où tu viens et tout, et il commence à te raconter sa vie. Et toi, t'es là, j'ai pas envie de parler, j'ai envie d'être seule. Et le gars, nani nana, oui, mais c'est pour faire connaissance, ah t'es pas sympa, t'es pas gentil, oui, mais moi ma vie elle est pas facile et tout, cool, va en parler aux 15 autres gars assis solo sur des bancs avec qui bizarrement t'as pas eu envie de faire connaissance et de devenir ami. Donc ça, exemple random de mec, tu ne le connais app, tu ne lui dois rien. Et il va quand même essayer de te culpabiliser sur t'es pas assez empathique envers lui, alors qu'en vrai, lui, il s'en bat les couilles de te quitter et en tant que personne, tu vois. Deuxième exemple, j'ai un homme dans ma vie que j'aime beaucoup, qui a été, fut un temps, un partenaire dans ma vie, qui maintenant est juste un ami, qui n'est plus un partenaire dans ma vie, en partie parce que c'est quelqu'un qui a du mal à être heureux. Bon, ça, ok. C'est quelqu'un qui, pendant un bon moment, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et en tout cas pendant le moment où il était mon partenaire de vie, n'était pas en thérapie. Donc c'est quelqu'un qui était très malheureux, mais qui n'était pas activement en train d'essayer de faire en sorte de ne pas l'être. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup besoin d'exprimer et d'extérioriser sa peine, ses frustrations, etc. Ce qui est d'autant plus important que c'est un homme qu'il n'a pas forcément été socialisé à le faire, qu'il n'a pas forcément beaucoup de personnes avec qui le faire, parce que peut-être qu'avec ses copains garçons, ils font pas ça, etc. Du coup, ça tombe sur qui ? Sur Bibi. Donc en soi, moi je suis ravie, super ! Mon mec m'ouvre son cœur, il me parle de ses émotions, même négatives, je vais être à la hauteur et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, ça devient... Mon mec, il arrive et il me parle pendant 35 minutes de ce qui va pas. Et en fait, moi je suis là, yes, est-ce que j'étais prête en fait à prendre tout ça ? Non, peut-être moi aussi j'ai passé une mauvaise journée, peut-être moi aussi j'ai des galères, peut-être... En fait, tu peux pas juste débarquer dans ma vie, me balancer ton seum et attendre que je sois en état pour te consoler, pour te donner une réponse constructive. En fait, moi aussi, j'ai des bails, tu vois. Et en fait, il y avait un moment où... Alors oui, à la fin, il me disait, bon, bah voilà, c'est mes bails, et toi, comment ça va ? Mais en fait, j'étais là, j'ai plus l'énergie, frère. J'ai même plus l'énergie de te raconter mes bails, tellement on vient de passer une heure à gérer les tiens. Et en fait, t'as pas check qu'on aille gérer les tiens en premier, et c'est toujours les tiens en premier. Et il y a toujours des trucs qui vont pas. Donc c'est pas poste, quoi. Et ça fait partie des discussions qu'on a eues quand on a arrêté de se fréquenter, et maintenant qu'on est amis, c'est... maintenant on a un safe word où je lui dis Mimi no dispo, c'est vraiment Mimi n'est pas dispo pour pas pour papoter, mais Mimi n'est pas dispo pour faire le soutien émotionnel, et c'est ok, et ça arrive, et maintenant aussi il est en thérapie, il a d'autres gens à qui en parler et tout. Donc voilà, deux exemples qui montrent que au-delà de cet exemple que la personne amène sur Reddit qui est peut-être un petit peu extrême, je voyais Justin dans le chat qui disait je me dis surtout qu'il la voyait pas comme une amie, mais comme une partenaire amoureuse potentielle, pour ça qu'il force à ce point, alors peut-être. Voilà, c'était un exemple, j'aurais Neko qui dit, mais qu'est-ce qu'il faisait le mari pendant tout ce temps ? Très bonne question aussi. C'est une histoire assez atypique, mais voilà deux exemples beaucoup plus classicaux peut-être, de comment on se retrouve à être la psy de ses proches mecs. Et là, je vous parle de relations amoureuses, mais c'est pas que, ça peut aussi être des amis. Je sais que j'ai des amis mecs où il y a des choses qui me le disent qu'à moi, ou qui disent qu'à des femmes. Y compris des amis qui parfois sont en thérapie quand même, et ils le disent même pas forcément à leur psy. Et d'un côté, bah moi je suis leur ami, et j'ai envie de les écouter, et j'ai envie de leur donner des conseils, et j'ai envie d'être en empathie avec, et j'ai envie de, à ma petite échelle, encourager le monde vers c'est ok que les mecs, si c'est hétéro, ils parlent de leurs émotions, ils parlent de leurs galères, ils parlent de ce qu'ils ressentent. Mais n'empêche que je les encourage aussi à en parler avec les hommes de leur entourage et à pas tout faire peser sur une personne, une meuf ou deux, et à en fait être aussi eux-mêmes actifs et proactifs dans aller mieux et dans... Parce qu'en fait, il y a un proverbe qui dit les gens en thérapie sont souvent en thérapie pour gérer les gens dans leur vie qui ne font pas en thérapie. Ce qui est un peu vrai des fois. Donc, je veux bien... En fait, j'essaye moi-même dans ma vie de trouver le calibrage, et je pense que je suis... J'ai quand même un gros syndrome de l'infirmière, j'ai envie de prendre soin des hommes et de les sauver. Donc je pense qu'en vrai, le potard, il est un peu loin, il est pas au milieu, quoi. Après, c'est aussi des hommes auxquels je peux me confier, donc c'est pas unilatéral, quoi. Donc il n'y a pas le côté, moi, ils s'en foutent de ma vie, quoi. Mais c'est quand même moi qui ai été proactive et qui ai instauré ce truc de moi je suis une personne qui parle, et en fait j'ai envie que tu me parles de tes émotions, j'ai envie que tu me parles de ce qui se passe dans ta vie, et ça m'intéresse pas d'avoir une amitié où on n'en parle pas. Donc c'est un peu moi qui ai initié ce type de relation, ce type de communication. Après il y a de la réciprocité dans voilà, c'est aussi des gens qui sont là pour moi, à qui je peux parler, à qui je peux me confier et qui me répondent et m'aident du mieux qu'ils peuvent. Mais moi j'ai facilement là au moins 7 personnes à qui je confie la majorité de... En tout cas, à qui, quand j'ai un problème, des émotions, je suis paumée, je vais parler. Et dans ces 7 personnes, je compte ni ma psy, ni aucun membre de ma famille, donc pas mes sœurs et tout. Parce qu'en fait, je suis une meuf et je me suis créé un tissu social et un filet de sécurité qui fait que quand j'ai des problèmes, j'ai plusieurs gens à qui en parler, et je fais pas tout peser sur la seule meuf de ma vie parce que mes potes avec qui je bois des bières cul sec après le rugby, je peux pas leur dire que j'ai envie de changer de taf et que j'ai peur de perdre en sécurité financière, tu vois. Amélie nous dit, bah, comme la personne le disait sur Reddit, le nombre de gars qui, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, harcèlent ou agressent, mais c'est fou, bien sûr. Josie Grec nous dit, les femmes ont le rôle social d'être les nourrices, les proches aidantes. On nous conditionne depuis le jour 1 de manière subconsciente, inconsciente, à être l'oreille active. C'est vrai, c'est vrai. Et bah, on voit que, par exemple, il y a beaucoup de gens, d'enfants, qui grandissent avec ces mamans qui prend soin, qui écoute, qui demande comment s'est passée la journée, qui sèche les larmes. Et papa, il va être peut-être plus dans le pratique. C'est papa qui apprend à faire du vélo, qui emmène au match de foot ou de rugby, etc. Mais c'est pas forcément lui qui va avoir le rôle émotionnel. Et du coup, bah, si on a grandi avec, c'est la figure féminine qui fait les émotions, et bah, on va avoir ce réflexe-là. Mais en fait, grandir, c'est aussi réfléchir à ses réflexes et travailler dessus. Petit Prout dit, je suis jeune maman d'un petit mec qui a maintenant 1 an et demi et je m'informe de fou pour l'éduquer à ne pas devenir ce genre de gars qui écrase l'entourage et pense que tout leur est dû. Gros challenge. Tout à fait courage, Petit Prout. C'est une belle aventure d'élever un petit mec en 2023. Ma sœur a un fils de 4 ans, donc ma grande sœur. Donc je sais que c'est aussi des préoccupations évidemment qu'elle a et que bah, moi, en tant que tante, j'ai un rôle plus lointain dans l'éducation de ce gamin, mais quand même, je vais être la tante féministe, mais aussi la tante cool, j'espère. Et du coup, bah, on a regardé. Et puis, je lisais beaucoup sur le forum Mademoiselle les mamans et futures mamans qui évidemment s'interrogeaient sur comment ne pas faire un gamin sexiste. Donc, je sais qu'il y a des ressources, il y a des bouquins, il y a des podcasts. Écoutez, Histoire de Daron, notamment le podcast de Fabrice qui parle, et Histoire de Daron, les podcasts de Fabrice qui parlent de parentalité, puisqu'on parle beaucoup de comment élever des petits mecs pas sexistes. Ah, attendez. Ah, et Josie Greg dit, c'est drôle, les femmes sur Twitch ont souvent ce rôle. C'est pas faux, hein. Il y a souvent des trucs genre libre antenne, courrier du cœur, appelez-moi, confiez-moi vos problèmes et tout. Et bah, pour être transparente avec vous, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est une des raisons pour lesquelles je suis un peu frileuse à faire des live format vous venez sur Discord et on parle. C'est parce que, de mon expérience, sorry, mais c'est tout le temps genre... Quelqu'un vient te raconter sa fucking mémoire traumatique incestueuse et moi je suis là, on passe une bonne soirée sur internet. Et c'est pas grave, genre je comprends que les gens aient besoin d'en parler et surtout sur des lives bienveillants et féministes et tout, bah on se dit c'est l'endroit où je peux peut-être raconter ce truc. J'ai pris peut-être un exemple un petit peu dramatique, mais en vrai c'est l'endroit où je peux raconter, bah voilà, j'en ai marre des mecs, c'est dur d'être une femme, j'en ai marre des LGBT-phobies et tout, et je suis 100% d'accord et c'est important d'en parler. Mais je sais pas comment faire pour pas vous dire, parce que je vais pas vous dire c'est pas intéressant vos traumas. Et en même temps, je suis là, j'ai pas envie de faire une libre antenne où c'est genre full trauma, quoi. Donc, mais j'y réfléchis, ça veut pas dire je vais pas. J'ai fait 10 ans chez Mademoiselle, on a trouvé des solutions. Hein. Mais ça fait partie de mes réflexions, j'ai pas envie d'être la psy des gens sur Twitch, quoi. Même si j'aime bien parler psychologie avec vous. Ramsey Bolton, oh, vous-même dit, l'idéal c'est de se confier aux gens qui en ont quelque chose à faire de toi. Genre des amis, on peut comprendre que c'est difficile pour des gens seuls de se confier aux gens appropriés. La thérapie n'est évidemment pas la chose la plus accessible du monde. Bien sûr, la thérapie n'est pas la chose la plus accessible, que ça soit financièrement, en termes même d'accès à un ou une psy pour les territoires déserts médicaux, etc. En termes même de, est-ce qu'on t'a élevé à envisager la thérapie comme une option, ou est-ce qu'on t'a élevé à la thérapie c'est pour les gens fous et les gonzesses, par exemple. Donc bien sûr, c'est pas si facile de dire allez en thérapie, mais le mec de l'exemple de tout à l'heure, il avait les moyens et enfin il était capable, et la preuve, il a fini par y aller et ça lui fait du bien. C'est quoi du coup la limite entre on se confie et on demande un soutien émotionnel? On me saoule pour que je m'ouvre plus, mais de l'autre côté, ça me gave d'entendre des gens qui se plaignent sans agir et pas envie de le faire. Ah, c'est marrant, Jalotte, c'est une bonne question. En fait, il y a une idée qui dit que en gros, il y a deux types de personnes. Il y a des problem solvers et il y a des gens qui sont des good listeners. C'est-à-dire quand tu amènes un problème ou voilà, une prise de tête à une personne, il y a des gens qui vont avoir tendance à immédiatement réfléchir en termes de qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, et il y a des gens qui vont réfléchir en termes de je t'écoute et je suis en empathie avec ce que tu racontes. Si toi t'es en recherche de solution et que t'as juste une personne qui te dit ah ouais je comprends c'est chaud, peut-être tu vas être frustré en mode non mais d'accord je sais que c'est chaud mais aide-moi. Si t'es en recherche d'empathie et que t'as une personne qui dit ok on va faire ça et ça et ça, et que t'es là en fait là j'ai peut-être pas l'énergie de trouver une solution, je veux juste que tu me patte-patte et que tu me dises c'est chaud. Donc je pense que c'est bien d'essayer un peu de se demander quand soit on va pas bien et qu'on a envie de se confier, est-ce qu'on sait de quoi on a besoin? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui écoute ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui trouve des solutions? De voir dans notre entourage qui fonctionne comment. Et bah, je sais que par exemple, Fabrice Florent, qui est un très bon ami, c'est un problème solveur de fou, quoi. Donc je sais que je vais plutôt aller lui amener des problèmes au moment où j'ai envie qu'il m'aide à trouver une solution. Mais ça m'est arrivé parfois, pour diverses raisons, de lui dire « Écoute, là, je vais t'amener un problème. Et je suis désolée parce que d'habitude, c'est pas toi que je vais avoir pour ça, mais j'ai juste besoin que t'écoutes. J'ai besoin que tu sois en empathie, que tu me patte-patte l'épaule et que tu me dises « C'est chaud, Mimi, je suis désolée. » Et c'est tout. J'ai pas envie que tu trouves une solution. » Et en vrai, je voyais que c'était un peu dur pour lui. Il était un peu en mode « Tu voyais qu'il y avait genre tout son cerveau qui était en mode « Mais j'arrive à trouver des solutions. » J'étais là « Je m'en fous. J'ai pas l'énergie de « Je veux juste un câlin. » Et il a été super, il m'a fait un câlin. Donc je pense que déjà pour ce côté de on me demande de mourir plus, mais moi je veux pas être le mec qui se plaint sans agir, bah il peut y avoir ça, il peut y avoir communiquer à ce que t'attends des solutions ou pas. Parce que du coup, des fois, oui, les gens te donnent des solutions et tu les appliques pas parce que t'étais pas en recherche de solutions, t'es juste fatigué et triste. Et du coup, les gens peuvent se dire, bah ils m'écoutent même pas, c'est trop chiant. Pas du tout. Et je pense aussi, voilà, comme je disais, peut-être interroger, prendre un peu soin aussi de la personne dont on veut qu'elle prenne soin de nous. Et soit lui demander, soit être un peu attentif à Est-ce qu'elle a l'air émotionnellement dispo? Est-ce qu'elle a l'air d'humeur? Est-ce qu'elle a l'air, elle, d'avoir... Est-ce qu'on lui demande un peu comment ça va? Tu peux te dire, en fait, j'ai envie de te raconter un truc qui me prend un peu la tête, mais je sais pas si t'es ready pour une petite prise de tête ou pas. Voilà, c'est possible aussi de mettre l'effort, mais au pire, peut-être la personne vous dira, en vrai, sauf si c'est genre un truc urgent, là, j'ai juste envie de rentrer manger des chips et jouer à Zelda. Toute ressemblance avec une personne existant ou ayant existé, tout ça. Et vous direz, ok, pas de souci, je vais parler à quelqu'un d'autre, parce que c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important d'arriver à s'entourer quand on y arrive de plusieurs personnes. C'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que du coup, quand la personne, elle est pas dispo, bah, on est tout seul, quoi. Et ça peut mal se goupiller. Et puis d'être dans une forme de communication plus transparente aussi sur j'attends ça de toi et est-ce que tu peux me le donner? Oui, non, sinon je t'en voudrais pas. Enfin, c'est, moi je le fais. Peut-être c'est bizarre, mais ça va. Enfin, je le fais autant que possible. Parfois, sûrement j'oublie, mais j'essaye de pas bombarder les gens avec mon mal-être tout en étant capable de leur demander de l'aide quand j'en ai besoin. C'est un work in progress grâce à la thérapie. EA Chronicles nous dit « Une fois, j'ai été dans ce cas, dans l'empathie, à vouloir aider et ça tournait en boucle. À un moment, j'ai posé les mots en disant « Mais tu suis jamais mes conseils, tu boucles. » Et là, ça m'épuise, top. Et il m'a fait du chantage au suicide. Je l'ai ghosté comme jamais, ça m'a écœuré de l'avoir aidé et osé poser mes limites une fois. Une fois mes limites et chantage au suicide. Ouais. C'est une réalité. Je vois, j'ai eu aussi des mecs qui m'ont fait du chantage au suicide. Aucun ne s'est suicidé. Donc c'est pour ça que je parle de chantage au suicide. Et c'est pour ça aussi que quand je lisais le post de la meuf sur Reddit, j'avais envie de dire, mais en fait, il y a tellement de limites qu'il eût fallu, sans vouloir faire du victim blaming, hein, mais que si elle avait posé avant, peut-être, malheureusement, elle n'en serait pas arrivée là, mais après, surtout, elle n'en serait pas là si le mec n'était pas dangereux, je dis pas, hein. La personne coupable, c'est le coupable. Mais puisque là, on réfléchit aux dynamiques qui font que. Donc, et j'entends à quel point aussi ça te deg, tu vois, Chronicles, parce que c'est genre. En fait, vraiment, la personne s'en fout de moi, en fait. Je suis un outil pour elle, je suis pas une personne. Si je ne lui apporte plus ce qu'elle veut, elle va soit me lâcher, c'est-à-dire plus être dans ma vie, genre, ok, j'étais vraiment ta psy gratuite. Un peu comme les mecs qui, quand ils se rendent compte qu'ils vont pas te baiser, ils arrêtent d'être potes avec toi, c'est toujours flatteur. Soit même être violente avec moi, en me faisant du chantage au suicide, en envoyant du paintball sur mes volets, whatever, enfin, en cassant mes affaires, whatever, enfin, en allant... pourrir ma réputation auprès de potes, enfin, ça peut prendre la vengeance, entre guillemets, d'un mec qui n'a pas ce qu'il veut, peut prendre différentes facettes, quoi. Ah, Charnt nous dit, c'est bête à dire, mais ce type de discussion n'est même pas envisagé, envisageable. Les mecs sont nuls à chier, donc si je comprends bien, entre eux, la confusion entre détresse émotionnelle et affective avec le manque de baise, la plupart, si tu vas mal, vont te dire baise un coup ou quelque chose de cet acabit. Ce qui en effet n'est. Ça peut être agréable quand c'est bien fait, mais c'est rarement c'est malheureusement pas la solution à tous les problèmes de la Terre. Red Dink dit « Bonjour, je débarque là-dessus. Mon gars parle à ses potes du fait qu'il aime pas... Parle pas à ses potes du fait qu'il aime pas son taf. Il en parle qu'à moi. » Ok, Red Dink, pourquoi ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Est-ce qu'il y a un truc de « les potes, c'est un statut social » ? Est-ce qu'il y a un truc de « il se sent en échec de pas aimer son taf et il veut pas partager cet échec avec ses potes ?» Ouais, qu'est-ce qui fait que ce sujet-là spécifiquement, c'est non ? Ou est-ce qu'en fait, c'est tous les sujets où ça va pas, dont il parle pas à ses potes ? Mais là, il se trouve que c'est le taf. Mais peut-être que s'il y avait des problèmes entre vous, il n'en parlerait pas à ses potes non plus. Peut-être que s'il y avait des problèmes avec son daron, il n'en parlerait pas à ses potes. Enfin, voilà. Je splodis. Je suis dans le cas inverse. Je suis un homme et mes potes meufs proches veulent être mes psys alors que j'en vois un. Je n'arrive pas à leur dire sans les braquer. L'année dernière, j'ai essayé avec l'une d'elles. Elle a super mal pris le fait que je refuse de me confier complètement à elle sur mes problèmes psy. Elle refuse de me parler depuis. Alors oui, après, le problème, c'est que voilà, en tant que meuf, comme on t'élève dans l'idée que. Coucou, Olendel. Que en gros, je sais pas, ça fait partie de ton utilité sociale, ça fait partie de ton rôle d'être la psy, bah du coup, il peut y en avoir qui vrillent quand elles peuvent pas être le psy, parce que du coup, elles ont l'impression qu'elles ont pas de rôle. Je pense pas que je vrille si je peux pas être la psy d'un mec, mais je sais que ça m'intéresserait pas de traîner avec un mec qui veut jamais parler de ses émotions. Avec une meuf non plus, je pense. Mais par contre, traîner avec un mec qui veut que parler deep, ça m'intéresse de fou. Donc peut-être que je fais partie du problème. Et je sais qu'en encourageant les mecs autour de moi à se confier, je peux parfois, et je travaille dessus, être un peu pushy, comme on dit, être un peu insistante. Et parfois, voir... Enfin, en fait, les gens, ils vont à leur rythme. Parfois, comme tu dis... c'était quoi ton pseudo, pardon ? Comme tu dis Just Flow, bah, les gens sont en fait, ils sont déjà en train de prendre soin d'eux, juste d'une façon différente de la mienne. Donc, pas forcément en se confiant au bar, mais en allant voir une psy. Je sais que j'ai un copain, il dit des trucs à son psy, il m'en parle pas. Et il me dit, bah, en fait, j'ai pas envie de te raconter mes séances de psy. Je suis là, ok, pas de souci. Car c'est privé, finalement. Même entre nous, même si on est très copains, c'est privé, quoi. Voilà. Alors Charnes continue en disant « Du coup, les mecs ont besoin, comme tout le monde, d'avoir un rapport émotionnel, et parce que la plupart relationnent par des centres d'intérêt, le sport, le JV, etc., ces liens sont tangibles tant que le centre d'intérêt ou autre reste. La plupart sont incapables de discuter sur ce plan-là, et le seul endroit où ils peuvent se confier, c'est en 1v1 avec une figure maternelle, ou bourré avec leurs potes. » C'est de feu mon podcast, le Boys Club, qui s'appelle maintenant Histoire de mecs, et qui est disponible sur les flux de Fabrice Florent, qui est un podcast masculinité que j'avais créé chez Mademoiselle avec Fabrice. C'est souvent on parle à nos potes que quand on est bourré, à nos potes mecs que quand on est bourré. Donc écoutez, on aura beaucoup parlé d'alcool. Bisous à Najoun, c'est un long live, hein. Est-ce que le chantage au suicide, c'est une forme de menace de mort? Alors c'est pas une forme de menacer la personne que tu vas la tuer, mais une forme de j'ai plus rien, si tu m'abandonnes je vais me foutre en l'air, je vais mettre fin à mes jours. En gros, tu dis à la personne, ça me frustre et ça me fait de la peine cet aspect de notre relation, et la personne dit ah ouais bah je vais me suicider, du coup tu fais quoi? Tu dis bon bah non, du coup on continue comme ça, ça me frustre pas trop, c'est bon. En fait c'est genre chabite tu perds, tu vois, enfin ok, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Et on parle de chantage au suicide parce que souvent il n'y a pas de vraie volonté de se suicider, c'est une façon d'exprimer certes un mal-être réel, mais en faisant peser sur quelqu'un d'autre la responsabilité de son suicide, qui est quand même gravissime, et c'est quelque chose qui est utilisé aussi, qui est un marqueur courant des violences conjugales, le chantage au suicide, si tu me quittes, je me fous en l'air. Top, et ben on va rester dans un couple toxique du coup, voilà. Jalot dit, je veux bien un tips. Moi, mon empathie, c'est trouver une solution. Problème égale souci égale trouver une solution égale plus de soucis. Je me sens profondément inutile quand on me demande d'être juste là. Comment on fait, à quoi ça sert? Alors, quand quelqu'un vient te dire, j'ai besoin de te raconter un truc et j'ai besoin que tu sois juste là, et que tu ne trouves pas de solution à mon problème, ça veut dire que le vrai problème que la personne t'amène, c'est pas le problème factuel, genre je m'embrouille avec ma manager, tu vois. Ma manager est toxique, ça me pèse. La personne, elle est pas en train de te dire mon problème c'est que ma manager est toxique et que ça me pèse. Elle est en train de te dire mon problème c'est que j'ai besoin d'en parler et d'être écoutée et d'avoir quelqu'un en empathie avec moi. Du coup, quand tu l'écoutes et que tu es en empathie avec elle, tu as trouvé la solution à son problème et tu as résolu son problème, donc tu as été utile. Tu n'as pas résolu son problème avec sa manager, mais ça sera peut-être dans un second temps. Peut-être que plus tard, une fois qu'elle est consolée, la personne, elle sera là. Bon, maintenant qu'on a bien chialé, comment on fait pour me défendre face à cette grognasse? Et ce sera très bien. Donc ce n'est pas... L'empathie est une solution. L'empathie est une réponse complète. L'empathie est un outil. L'empathie est un cadeau. L'empathie, on peut avoir le même problème, la même situation, et recevoir de l'empathie. Et après, ça va, alors qu'on est dans la même situation. Donc, c'est déjà ça, en fait. C'est déjà une solution au problème, je trouve. Oh là là, vous en avez des choses à raconter. Ramsey dit, j'ai un ami qui vient souvent vers moi pour se confier, je le comprends aussi car je suis le plus dispo sur le Discord de notre groupe pour ce genre d'exercice, surtout qu'il est à l'étranger relativement seul. Quand je trouve ça trop unilatéral, je me force un peu à me confier également à lui, quand bien même je lui avais pas demandé. Je me sens mal d'imposer mes problèmes quand à la base on parle de psy, mais c'est ce que j'ai trouvé pour pas juste être le psy. Trop intéressant, Ramsey. Et écoute, peut-être que ça pourrait être intéressant de lui en parler. Lui dire, en fait, mec, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais souvent tu viens m'envoyer tes problèmes et ça me va bien d'en parler avec toi, mais tu me demandes pas trop comment moi je vais. Et tu viens pas trop creuser, est-ce qu'il y a pas, tu vois, des trucs dont je parle pas avec les autres du Discord et tout. Et du coup, bah, j'aimerais bien que tu prennes aussi de mes nouvelles de temps en temps. Et en fait, je pense vraiment que la plupart des gens, on leur dit ça, ils sont là, oui, bien sûr, ok, bah oui, bah j'aurais dû y penser, désolé, mais bien sûr je vais le faire, j'ai envie de faire ça. Parce que les gens, ils ont envie d'être des bons amis, quoi. Donc, moi, j'ai pas... En fait, être une bonne amie ou un bon ami, ça s'apprend. Communiquer ses émotions, ça s'apprend. C'est un truc qu'on n'est pas avec. Et selon les chances qu'on a eues dans la vie, l'éducation qu'on a eue et tout, on a plus ou moins de facilité à y accéder. Donc je ne vais jamais reprocher à un mec ou à qui que ce soit de ne pas être in touch avec ses émotions et d'avoir du mal à les communiquer parce que je sais que ça l'est. Et moi-même, en fait, j'ai beau être une femme, je suis extrêmement bloquée émotionnellement et ce n'est pas pour rien que je vois une psy depuis 5 ans maintenant. Donc bientôt. Donc je vais pas dire c'est facile, y'a qu'à. Et je trouve que moi ça me rend heureuse d'apprendre à gérer mes émotions, à être une meilleure amie. Et quand quelqu'un me dit j'ai besoin que tu agisses comme ça avec moi, ou quand quelqu'un me dit là je n'ai pas aimé comment tu agis avec moi, c'est parce que j'attends de mes amis, et ben je trouve c'est précieux parce que c'est quelqu'un qui me donne une ligne de manuel pour être une bonne personne pour elle. Et la rendre heureuse et du coup rester dans sa vie. Et ça veut dire que la personne a envie de me garder dans sa vie parce que sinon elle se ferait pas chier, elle serait juste en mode bah, ce mimi c'est relou et puis on s'éloignerait petit à petit. S'il y a volonté d'améliorer la relation, c'est bien qu'il y a envie que la relation continue. Donc je trouve qu'en plus c'est flatteur quand les gens disent en fait j'aime pas trop quand tu fais ça, est-ce que tu pourrais faire différemment parce que ça me fait de la peine. bah c'est chiant, enfin j'ai pas envie de faire de la peine aux gens que j'aime, mais je trouve ça tellement précieux qu'ils me le disent plutôt que juste ils me laissent l'ignorer, potentiellement le faire avec d'autres, et puis bah qu'on s'éloigne, parce qu'en fait il y a de la rancœur, il y a du non-dit, et puis ça se sent, quoi, ça se sent forcément. Ah, alors il y a Charnt qui est en train d'aider un petit peu Jalod, parce que Jalod dit mais ça sert à rien de parler de ses émotions si enfin ça sert à rien d'apporter du soutien émotionnel si la situation n'a pas changé. Et Charme dit, bien sûr que si la situation a changé, la personne a pu s'épancher, partager ses sentiments, tu sers de mouchoir émotionnel, mais ça peut suffire en soi. Et si tu veux bien le faire, faut permettre... Ah oui, parce qu'il y a aussi des tips sur comment bien écouter, ça c'est vrai. Faut permettre à la personne de tout déverser, relancer, demander des détails pour permettre que ça se vide bien, reformuler pour montrer que t'as compris. Et bah ouais, en fait, poser des questions et... Essayer, en fait, il y a aussi une métrique un peu délicate parfois qui est de trouver la limite entre je raconte une histoire similaire qui m'est arrivée pour te montrer que je suis en empathie avec toi et parce que peut-être tu peux en apprendre, et je raconte une histoire similaire qui m'est arrivée, mais ça fait juste genre ok, maintenant c'est mon tour de raconter ma vie, et c'est un peu genre d'accord, merci de m'avoir raconté ton histoire qui ne m'aide pas à traverser la mienne. Donc réfléchir, pas être en mode j'attends mon tour de parler, mais vraiment écouter ce que la personne dit et lui demander ok, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu penses que c'est lié à d'autres trucs dans ta vie? Est-ce qu'il y a un background? Est-ce que tu as déjà ressenti des choses comme ça? Pourquoi tu m'en parles? Est-ce que tu en as parlé à d'autres gens? Est-ce que ça te fait du bien, là, de m'en parler? Est-ce que c'est dur? Un peu des questions de psy, en vrai, quoi. C'est, moi, ma psy, elle me dit plein de fois, et c'est quoi cette émotion? Et je lui dis, bah, je sais pas, c'est pour ça que je vous paye. Comme quoi, on apprend. Et je dirais... éviter de couper la parole, sauf si c'est vraiment un truc de... En fait, je suis en train d'être en incompréhension avec ce que tu me racontes et je vais pas te laisser parler 10 minutes et te dire « j'ai pas compris le début ». Ou voilà, ou recalibrer un petit détail ou quoi, mais éviter de couper la parole. Et alors, ça, c'est conseil d'interview goldé, c'est laisser les silences. Laissez la personne, quand elle finit de vous raconter, taisez-vous un peu. Si vous êtes IRL, ça peut être l'occasion de faire un geste physique gentil, une tapote, lui prendre la main, machin, un câlin. Mais même pas IRL, même sur Discord, genre laissez-lui le temps de rien dire un petit peu, parce que, alors en interview le secret c'est que les gens la plupart des gens ont peur du silence, du coup ils vont parler, du coup parfois ils vont te raconter des trucs qu'ils racontent pas en interview. Là l'idée c'est pas de piéger la personne que vous aimez, c'est juste de lui laisser la place de digérer ce qu'elle vient de vous dire et de peut-être trouver d'autres choses. En fait elle est en train de creuser, elle est en train de imaginer une plongeuse quoi, qui descend des paliers et il faut qu'elle s'arrête régulièrement et tout. Alors ça dépend de qui elle est, de la gravité de ce qu'elle vous raconte, de son mode de communication, ça dépend. Peut-être elle va arriver, elle va dire c'est ça mon problème, ma manager elle me fait chier et en fait comme j'ai fait un burn-out à mon dernier taf, bah ça appuie sur tout ce trauma et j'ai l'impression que je serai jamais adaptée au monde du travail. Et t'es là, eh bah on a descendu vite le palier du coup, le petit palier, au moins le petit chemin mental de qu'est-ce qui fait que ça te touche autant cette situation. Mais parfois, c'est descendre de façon un peu laborieuse. Et les silences, ça aide à respirer, ça aide à la tendresse. Ça peut permettre à la personne de reprendre un petit peu ses esprits si jamais elle est un peu au bord des larmes ou quoi. Et cependant, c'est pas grave hein, de pleurer. Mais ça peut aussi l'amener à vous dire quelque chose qu'elle vous dirait pas si vous rebondissez tout de suite en mode « Ouh là, c'est gênant les silences ». C'est pas gênant les silences, c'est tranquille les silences. Regardez, là, on se dit rien. Bah ça va, non? C'était pas la mort? Ah ouais, trop bon conseil, merci Ezoc. Conseil, pendant le silence, ne sortez pas votre téléphone. Rangez votre foutu smartphone quand vous avez des conversations importantes avec des gens que vous aimez, qui vous racontent des trucs importants. Pareil, si vous êtes sur Discord, si vous êtes en visio ou quoi, n'allez pas faire autre chose. N'ouvrez pas d'autres onglets. Je sais que la notif, elle vous chatouille. Mais vous savez quoi? J'ai eu 48 notifs depuis le début de ce live et en fait, je vais pas vous interrompre pour ça, tu vois. Donc, parce que je vous respecte et qu'on est là ensemble, on passe un bon moment, ça peut attendre une heure ou deux. Du coup, oui, vous n'êtes pas au bar en mode mon pote est parti pisser, je sors mon téléphone pour checker Insta en ce moment. Vous êtes en train d'écouter quelqu'un qui se confie à vous. Essayez d'être 100% dans le moment et de ne pas lui faire sentir que ce n'est pas intéressant. Parce que c'est ça le problème, c'est que si vous sortez votre téléphone, c'est un peu genre, eh ben, I guess, la personne se fait chier et a envie de parler, de passer à autre chose. Ah, Erewin, mais vous êtes trop fort, qui dit... Si jamais vous voulez créer un blanc de réflexion sans forcer l'autre à parler, oui, parce que peut-être, en fait, vous êtes là, je vais me taire pour que l'autre dise plus de choses, et l'autre est là, j'ai vraiment fini de parler, je n'ai plus rien à dire, je ne sais pas pourquoi la personne dit rien, est-ce que c'est pas intéressant, quoi, de dire, je dois réfléchir, est-ce que ça te va si je prends un petit temps? C'est cool. Et comme ça, vous pouvez reprendre la parole à un moment si vous voyez que ça commence à traîner et que peut-être la personne a juste fini de parler, ou en tout cas va avoir besoin d'une question peut-être. pour se relancer, quoi. Plot twist, maintenant le chat est amoureux de Mimi. On n'a pas fait les questions pour tomber amoureux. On fera ça. Ah, Justin dit, il y a aussi un truc. En tant que mec, on t'apprend que quelqu'un qui pleure, c'est pas bien. Du coup, si quelqu'un pleure, je me sens mal et je fais tout pour que les gens pleurent pas. Alors que ça devrait pas être un problème. Oui, des fois, les gens pleurent. C'est les pleurer. Quand je pleure, Fab, il me dit, c'est bien, sors! Et quand, genre, je pleure en pleurant pas vraiment, vous voyez, quand, genre, j'ai des sanglots, mais genre, bouche fermée, il est là, arrête! Pleure un grand, laisse la morve, laisse tout sortir, sois moche, tu vois, c'est pas grave. Pleure un grand coup. Et c'est vrai que ça fait plus du bien, je trouve, de pleurer vraiment en mode, que d'avoir juste la petite larme stoïque The Rock en mode, alors, c'est bien de pouvoir faire les deux, et des fois, on n'est pas en capacité socialement de faire les grosses larmes. Mais c'est dommage de pas savoir faire les grosses larmes. Du coup, des fois, laisse les gens pleurer. Ils ok. Pas de panique. Ok. C'est tranquillement la fin. Alors, on a fini les sujets Reddit. C'était trop bien. Je vais réfléchir à tout ce qu'on s'est dit là. Je pense qu'on peut faire une live sur les sujets émotion, thérapie, masculinité. Mais pas que, parce que tout ce qu'on dit aussi, évidemment, ici, ça peut parler aux hommes comme aux femmes. Ok. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là, c'était un super live, ça m'a donné plein d'inspi pour d'autres sujets à aborder avec vous et tout. On arrive tranquillement au premier anniversaire de cette chaîne et à des nouvelles choses à faire et à une envie de donner un nouveau souffle à cette chaîne, donc attendez-vous à des bails, attendez-vous à des surprises, prenez soin de vous. Bye bye.